Bonsoir à tous. Nous commençons ce libre journal par une nouvelle triste. C'est la mort de notre ami André Dufraisse, le mari de Martine Lehideux. André est mort hier. Il a été vaincu par le cancer contre lequel il s'était battu comme un bon soldat pendant des mois avec un courage extraordinaire. Et il sera. La messe de funérailles aura lieu demain à 10h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et donc, tous ceux qui veulent y être présents sont invités à participer à cette cérémonie. On est tous peinés parce que André était une des grandes figures de la droite nationale. C'était un personnage courageux qui avait montré dans sa vie qu'il était prêt à affronter les pires difficultés. C'était aussi un garçon qui était extrêmement chaleureux, très gentil, très drôle. Et c'était quelqu'un qui avait un curieux talent, un grand talent d'aquarelliste. Et on le regrette vraiment. Et puis, on a beaucoup de peine pour Martine, qui va être toute seule et qu'on embrasse. Alors, je dédie cette émission à André. Je précise que sa messe de funérailles aura lieu demain à 10h30. Demain, c'est jeudi pour les auditeurs qui nous écouteraient jeudi matin. C'est tout à l'heure à 10h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, à côté de la Mutualité. On connaît tous l'adresse. Voilà. À bientôt, André. Le combat continue. Et Dieu merci, le combat nous offre. Ah oui, je précise quand même à l'usage de la police de la pensée que la musique que vous venez d'entendre est une fanfare de funérailles de 1830, c'est-à-dire il y a 164 ans, donc il y a prescription. Oui, je disais, le combat continue, bien sûr. Et alors, on vient d'apprendre une chose. Moi, je ne savais pas ça, ce que nous a dit Françoise à l'instant, mais c'est une nouvelle formidable, car M. Pasqua, Charles, vient de dire, à la suite des événements de Garges-lès-Gonesse, que comment
il
a dit ?
Donner un coup de balai.
Un coup de balai. Alors, M. Pasqua, il va balayer les jeunes. S'il réussit aussi bien que quand il voulait terroriser les terroristes, les chefs, ils n'ont pas trop de soucis à se faire quand même, faut bien dire. Hein. Mais enfin, bon, à mon avis, ils doivent être terrorisés dans leur, dans leur banlieue suburbaine, si j'ose ce pléonasme. Ils doivent trembler dans leur basket. Vous vous rendez compte, hein. Le ministre de l'Intérieur va les balayer. Mais c'est incroyable. Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais je prends par exemple Libération. On ne peut pas dire que Libération, ce soit un journal d'extrême droite quand même. Alors voilà l'information que je lis ce matin. C'est pas du tout à Garges-lès-Gonesse. Je ris toujours quand j'entends Garges-lès-Gonesse parce que dans le temps, il y avait un journal anglais, un magazine anglais qui avait publié une lettre d'un lecteur de Garges-lès-Gonesse. Et comme visiblement, ils pensaient que cette ville était une pure invention. Ils avaient mis le nom du lecteur et le nom de la ville de société, Garer les genoux. Alors à chaque fois, je pense à Garer les genoux. Donc là, c'est pas à Garer les genoux, c'est à Gennevilliers. Et alors, à Gennevilliers, le maire de Gennevilliers, qui n'est pas la moitié d'un maire, d'abord, il est député. Ça veut dire quand même que ça doit être quelqu'un d'extrêmement sérieux. Il a découvert que les chiens sont dangereux. Parce que, dit-il, il y a des pitbulls à Gennevilliers, vous ne saviez pas ça. Vous savez ce que c'est, les pitbulls? C'est des chiens, paraît-il, extrêmement méchants. Méchant, pour un chien, ça se dit C-O-N. Vous voyez, c'est comme ça qu'on appelle en réalité. Alors donc, il y a des chiens très méchants et il a donc décidé d'interdire les chiens à Gennevilliers. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que je pense qu'il va mettre, aux limites de la ville, il va mettre une pancarte avec défense aux pitbulls d'entrer en ce lieu. J'espère simplement que les pitbulls des villes voisines de Gennevilliers savent lire. Parce que s'ils se baladent tout seuls et qu'ils voient la pancarte et qu'ils savent pas lire, ça servira à rien. Donc, il a interdit les chiens à Gennevilliers. Alors, Libération a demandé aux gens de Gennevilliers ce qu'ils pensaient de cette décision. Et les gens de Gennevilliers ont répondu. Déjà que la police rentre pas dans certains quartiers pour arrêter les trafiquants de drogue, vous pensez bien qu'elle va pas venir choper, elle va pas se déranger pour choper un clébard enragé avec des crocs salivants sur un terrain vague à la fin de la nuit, à la tombée de la nuit. Effectivement, ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est de savoir qu'à Gennevilliers, les policiers ne vont pas dans certains quartiers pour arrêter les trafiquants de drogue. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que monsieur Jacques Brune, le maire député, je ne sais même pas de quelle tendance il est. Enfin, je sais qu'il n'est pas Front National, ça c'est sûr. Le député maire de Gennevilliers, il a justifié son interdiction des pitbulls par le fait que les pitbulls sont des chiens qui sont utilisés par les trafiquants de drogue. Vous ne savez pas ça? Quand vous voyez un pitbull, vous le regardez. En général, au bout du pitbull, il y a une chaîne. Et au bout de la chaîne, il y a un monsieur. Et ben, le monsieur, c'est un trafiquant de drogue. C'est facile à reconnaître, un trafiquant de drogue. C'est un monsieur qui se promène avec un pitbull. Non, j'ai pas un pitbull, moi. Alors, on se demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'attend le maire de Gennevilliers, Jacques Brune, pour prendre un arrêté municipal interdisant les trafiquants de drogue. Parce que ça serait quand même plus simple. On a plus de chances qu'ils sachent lire que les pitbulls. Et puis, quand ils partiront du village, oui, évidemment, c'est pas certain. Mais on va dire, il y a quand même plus de chances. C'est quand même plus facile d'apprendre à lire un trafiquant de drogue qu'à un pitbull. Enfin, personnellement, j'ai pas envie d'essayer ni avec l'un ni avec l'autre. Mais s'il fallait vraiment le faire, je préférerais quand même me colter avec un trafiquant de drogue qu'avec un pitbull pour ne rien cacher. Et donc, ça serait plus simple de dire au trafiquant de drogue, allez-vous-en avec votre pitbull et votre drogue. Mais apparemment, Jacques Brune n'y a pas pensé. Je lui vends l'idée pour ce qu'elle vaut. Alors en fait, j'en fais cadeau. Voilà. Mais c'est pour vous montrer quand même une chose. C'est que quand M. Pasqua dit qu'à Garges-lès-Gonesse, il va balayer, il va donner un coup de balai, ben pendant qu'il a le balai dans la main, on pourrait peut-être lui conseiller de faire un tour à Gennevilliers. Il pourrait balayer les trafiquants de drogue et les pitbulls. Quoique, si le pitbull attrape le manche à balai, j'ai l'impression que Pasqua, il va falloir qu'il court vite. Mais pendant qu'il y est, histoire de balai, il pourrait aussi faire un tour à Rouen. Vous savez qu'à Rouen, il y a une cité qui s'appelle la cité des sapins, le quartier des sapins. Et alors dans ce quartier, il y a eu pendant plusieurs semaines des émeutes quotidiennes, enfin plutôt nocturnes, mais quotidiennes aussi. Et c'était pas grave, c'était juste des jeunes qui jetaient des bouteilles, qui jetaient des poubelles, qui jetaient des cailloux sur les policiers. Alors leur truc, c'est qu'ils appellent, ils mettent le feu à une voiture. Les pompiers viennent pour éteindre la voiture, ils jettent des cailloux sur les pompiers appellent les policiers viennent, et à ce moment-là, ils se coltent avec les policiers. Ils se collectent, non, comment on dit? Ils se coltent. Ils se coltent, le meilleur ami de l'homme. Et avec les policiers. Et les policiers ne sont pas contents, naturellement. Alors, les policiers, ils ont décidé, ils ont trouvé un remède à Rouen. Ils ont décidé de négocier avec les représentants de la pègre qui leur jetait des cailloux, des poubelles, des boulons, des cocktails Molotov et tout. Et alors, ils ont vu arriver un garçon de 13 ans. Ils ont négocié avec ce garçon de 13 ans. Ils ont négocié, vous m'entendez, en présence du directeur central des polices urbaines. Ils ont négocié pendant toute la nuit avec ce gosse de 13 ans. Et une fois que cette chère tête blonde, oui, bah oui, on est en Normandie, a été convaincue... les policiers ont accepté de se retirer et de ne plus intervenir pour ne pas faire de provocation. Moyennant quoi, les chartettes blondes ont promis de ne plus mettre le feu aux voitures et tout. Alors ça a tenu à peu près 15 jours. Et puis hier, à la suite d'incidents ayant opposé des jeunes à des ouvriers d'un chantier, un terrassier ayant été légèrement blessé. Des policiers sont intervenus dans la cité des Sapins à Rouen. 6 policiers sont intervenus. Ils ont naturellement été accueillis par des jets de pierre et de bouteilles de jeunes encagoulés, nous dit-on. Et puis, pour terminer cet exercice qui devient un petit peu maintenant banal, les jeunes ont mis de la nouveauté là-dedans. Ils ont tiré un coup de feu en direction des policiers. Donc maintenant, les flics au sapin, vous pouvez toujours les appeler. S'ils viennent, je veux bien être pendu. Avignon, c'est... Ah ben voilà, un auditeur nous dit, le maire de Gennevilliers, l'homme qui interdit les pitbulls, il est communiste. Membre du Parti communiste. C'est pour ça qu'il interdit les pitbulls. Ça doit être un chien américain, ça. Alors, une fois que M. Pasqua a fini son coup de balai à Gennevilliers, non, à Garges-lès-Gonesse, alors qu'est-ce qui s'est passé à Garges-lès-Gonesse? Il faut quand même raconter l'histoire. Ça ressemble étonnamment à ce qui s'est passé à Rouen, d'ailleurs. Vous avez vu qu'à Rouen, les policiers venaient interpeller des jeunes qui avaient attaqué des terrassiers et qui en avaient blessé un. À Garges-lès-Gonesse, des policiers sont venus interpeller un jeune dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un adolescent de 16 ans tué de 2 balles lundi dans le parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Alors, donc ils sont arrivés, les policiers de la brigade criminelle chargée de l'enquête sur le meurtre de la Courneuve sont venus entendre le jeune homme. Ils ont été pris à partie par une centaine de jeunes alors qu'ils l'emmenaient au commissariat local. Les policiers ont été secourus par leurs collègues, mais les jeunes ont encerclé le commissariat. Une demi-douzaine de véhicules ont été incendiés hier soir à Garges-lès-Gonesse. Plusieurs vitrines de magasins ont été brisées. Et les pompiers qui venaient éteindre les incendies qui avaient été allumés par les jeunes ont été pris à partie. Enfin, bon, on connaît le scénario, il est archi-classique. Alors donc, il faut aussi faire le ménage maintenant à Garges, à Gennevilliers, à Rouen. Il faudrait faire le ménage aussi à Avignon, parce qu'à Avignon, ça c'est présent qui nous dit ça, sous les plumes de Jean Duhasier, l'interpellation lundi matin d'un jeune de la cité Tramontane, où a été retrouvé le corps de Mohamed Tajra. Donc l'interpellation lundi matin d'un jeune de la cité a provoqué naturellement de nouveau des protestations et des exactions. Ça suivait d'ailleurs des exactions qui avaient été commises par les mêmes bandes de jeunes quelques jours plus tôt, puisque, à la suite de l'assassinat de Mohamed Tajra, un buraliste français, on se demande ce qu'il foutait dans ce quartier, il avait gardé son bureau de tabac dans le quartier. Alors, lui, il a été arrêté. C'est le seul Français du quartier. Donc, comme c'était forcément un crime raciste, c'était forcément de sa faute, on l'a arrêté, on l'a emmené au commissariat. Il a été détenu 24 heures. Mais pas du tout pour l'interroger, pour le protéger d'éventuelles représailles de la part de la communauté locale. Et alors que les policiers savaient très bien qu'il était innocent, puisqu'il avait un alibi en béton armé et qu'il a été libéré immédiatement. Donc, le procureur de la République d'Avignon, le procureur de la République d'Avignon, pas de la République d'Avignon, Michel Aubert, a implicitement confirmé cette inhabituelle procédure judiciaire en recevant personnellement lundi, pour les rassurer sur les suites de l'enquête, une délégation des jeunes de la cité. Vous voyez, quand ils ne discutent pas avec le directeur central des polices urbaines de Rouen, ils discutent avec le procureur de la République d'Avignon. Moi, ils disent d'ailleurs, si vous ne nous donnez pas satisfaction, on casse tout, on casse les vitrines, on brûle les voitures et tout. Les jeunes sont partis, on a libéré le buraliste, mais quand même la police lui a dit, vous êtes indésirable dans le quartier, il vaudrait mieux fermer votre bureau de tabac et vous mettre au vert le temps que la tension retombe. Alors le buraliste est parti, il est exilé. Il croyait chez lui, c'est imbécile parce qu'il vivait en France. Mais non, monsieur, il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a des quartiers. L'autre jour, à la télévision, on voyait un reportage sur une... Je crois que c'était une libraire qui quittait une cité comme ça. Et quand le journaliste lui a dit « Mais pourquoi vous partez ?» Elle a dit « Parce que les populations immigrées n'ont pas les moyens d'intégrer les Français dans le quartier. » Alors le gars lui a dit « Attendez, j'ai pas bien compris ce que vous dites. » Elle a dit « Non, non, vous avez très bien compris ce que je dis. Ils n'ont pas les moyens de nous intégrer. » Voilà. Donc elle est partie. Lui va partir aussi. Mais ça n'a pas suffi, parce que naturellement, comme il n'avait pas pu arrêter le buraliste pour l'assassinat de Mohamed Tajna, ils ont arrêté un jeune. Et alors là, ça n'a pas plu du tout. D'où nouvelles émeutes. Un jeune marocain, en plus, c'était vraiment de la provocation. D'où nouvelles émeutes. Mais, il faut se réjouir, puisque Monsieur Pasqua vient de nous annoncer qu'il allait remettre de l'ordre dans tout cela. Et quand même, on est bien content de savoir qu'il va prendre le manche à balai. Eh bien, on attend. Normalement, il ne devrait plus y avoir aucun problème dans les banlieues dans les jours qui viennent. Hein. Il y a plein d'histoires drôles dans l'actualité, mais je ne peux pas faire le tour de tout. Oui, on me dit que le maire de Gennevilliers est communiste comme celui de Garges-lès-Gonesse. Et que France Info avait naturellement annoncé un crime raciste, alors que RTL annonçait un règlement de compte entre dealers. Et comme dit cet auditeur, à qui fera-t-on croire que le racisme existe en France? C'est bien vrai. D'abord, comme j'ai toujours dit, si le racisme existait dans ce pays, les étrangers de races différentes qui sont extrêmement intelligents ne viendraient pas en France. Donc s'ils viennent en France, c'est bien parce qu'ils savent qu'ils ne craignent rien. Oui, une auditrice demande quel âge il faut avoir pour être jeune. Mais madame, ça n'est pas une question d'âge. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, la nouvelle la plus drôle, vraiment la plus drôle, la plus en même temps réjouissante de la semaine, peut-être même du mois, c'est l'affaire Bariani. Alors, vous savez que Bariani, c'est un super caïd maçon, maçonnique de Paris. C'est le grand caïd de la maçonnerie à Paris, à la mairie de Paris. Et c'est un monsieur parfait. Il est politiquement correct. Des pieds à la tête, il n'y a rien à dire. Il est impeccable. Et puis, il y a quelques jours, un monsieur qui signe sa lettre Paul Leuré. Vous entendez bien le nom. Lui écrit en lui disant, il lui écrit une longue lettre en lui disant il y a des problèmes de sécurité dans l'arrondissement, le 20e arrondissement dont M. Bariani est le maire. Il faudrait peut-être faire le nécessaire pour régler ces problèmes de sécurité. Et ce monsieur fait un certain nombre de propositions dans le cadre du règlement des problèmes de sécurité dans le 18e arrondissement. Monsieur Bariani lui répond qu'il prend beaucoup d'intérêt à ses propositions. Il ajoute « Je vous indique qu'il est prévu une petite place en cœur d'îlot dont le traitement architectural et paysager sera conçu de telle manière qu'il préservera la sécurité et la tranquillité des riverains. » Ça, c'est parce que le monsieur qui écrivait, il avait dit « Il y a une place où il se passe tout le temps des trucs, il faudrait mettre un mirador pour surveiller la place. » Alors Bariani lui répond « Oui, mais je vous indique qu'il est prévu une petite place en cœur d'îlot, etc. etc. » Et il ajoute « Vous formulez par ailleurs un certain nombre de remarques sur l'aménagement de cette place en cœur d'îlot qui me semble très juste et dont il me paraît devoir être tenu compte dans la phase actuelle des réflexions et des études. » Voilà. Et M. Paul Leuré est extrêmement content. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rend public, par tract, le secret de l'affaire. C'est que la lettre de proposition en vue d'améliorer la sécurité de l'arrondissement qu'il a envoyée à M. Bariani, c'est tout simplement un extrait de Mein Kampf du chancelier Adolf Hitler. Vous savez? Enfin, il n'a pas écrit ça quand il était chancelier, il est devenu chancelier après. Puis après, il est encore devenu autre chose, mais ça, on ne peut pas en parler. Mais c'est Adolf Hitler donc, qui a écrit à Bariani, et Bariani lui répond « Oui, oui, c'est formidable, vos idées sont extraordinaires, je les ai suivies avec beaucoup d'intérêt. » Enfin, il ne dit pas exactement « c'est des idées extraordinaires », il dit « Vous formulez par ailleurs un certain nombre de remarques qui me semblent très justes et dont il me paraît devoir être tenu compte. » Alors déjà, cette histoire est très rigolote. Il faut reconnaître que Bariani s'est fait piéger comme un bleu Alors comme il dit effectivement, enfin comme dit un de ses collaborateurs, il faut connaître Mein Kampf par cœur pour reconnaître le texte. Et c'est si les gens qui avaient fait ça n'avaient pas avoué, on ne l'aurait jamais su. Parce que les gens qui ont fait ça, ce sont des gens qui s'appellent les Véhéments, c'est une espèce de groupuscule d'extrême gauche anonyme. Et ben, comme quoi on peut être d'extrême gauche et avoir des idées très rigolotes. Mais bon, déjà ça c'est drôle. Mais le plus drôle encore, c'est la suite. Parce que naturellement, à la suite de ça, le mal a été fait, nous dit Libération toujours. Selon les élus socialistes de l'arrondissement, la communauté juive du quartier est en émoi. Lundi, 7 conseillers d'opposition, Michel Charjat et Bertrand Bray en tête, ont appelé Jacques Chirac afin qu'il lève toute ambiguïté sur la position du maire du 20e. Alors, ça c'est carrément à se taper le derrière contre la suspension, parce que Charjat, il est tout ce qu'on veut, mais pas un imbécile. Bertrand Bray, je ne sais pas. J'ai pas d'informations sur lui, mais Charjat, on sait bien ce que c'est. Bon, comment peut-il faire semblant de croire que c'est autre chose qu'une plaisanterie de potache gauchisant? Alors, il saute sur l'occasion pour demander à Bariani de faire connaître sa position sur le nazisme. Moi, je peux vous la donner, la position de Bariani sur le nazisme. Il est contre, c'est évident. Je ne connais pas bien Bariani, mais je peux vous dire qu'il est contre. Au niveau de responsabilité qu'il occupe dans la franc-maçonnerie, ça m'étonnerait qu'il soit pour, quand même, vous voyez. Voilà, on s'amuse bien, je trouve. Eh bien, on va peut-être écouter un petit peu de musique pour clôturer, à moins qu'on réponde aux questions, plutôt, non? Non, il n'y a pas encore de questions? Il y a des appréciations?
Oui, des appréciations. Les gens sont contents d'avoir écouté J'avais un
camarade. Et un auditeur nous dit qu'elle n'est pas de 1830, elle est de 1809. Donc la prescription est encore plus garantie. Non, ben alors voilà, c'est tout. Ah oui, alors il y a un auditeur, effectivement, qui nous dit un détail à propos de Pitbull. Il nous apporte une explication. Pourquoi voit-on souvent des clochards, enfin des personnes sans domicile fixe, accompagnées de gros chiens? Mais c'est parce que les policiers n'ont pas le droit d'arrêter les chiens. Et d'ailleurs, je vais vous donner un bon secret. Quand vous stationnez, quand vous arrêtez votre voiture dans un endroit où vous risquez de vous la faire enlever par les fourrières, mais vous laissez un chien dedans et ça règle le problème. Oui. Vous aurez l'amende, mais votre voiture ne sera pas emportée parce que les fourriéristes n'ont pas le droit de le faire. Et un auditeur me demande si je préfère du Beaujolais ou des Côtes-du-Rhône pour éclaircir ma voie. N'importe quoi. Alors là, je suis vraiment pas difficile. Ah, il y a encore une information très amusante que je voulais vous donner, qui est anecdotique mais drôle. Il y a quelques mois, dans un hôpital du Sud-Ouest, un jeune anesthésiste... Oui, je crois que c'est un anesthésiste, vérifie le groupe sanguin d'une jeune femme qu'il va opérer pour une grossesse extra-utérine. Et il est très étonné de voir, quand il fait sa vérification de groupe sanguin, que non seulement le groupe sanguin ne correspond pas à la fiche de la malade, mais encore que ce groupe sanguin a changé 3 fois dans l'année, pour la même malade, enfin pour le même nom, et que cette personne qui est en train de faire une grossesse extra-utérine est censée, d'après ses papiers de sécurité sociale, avoir 74 ans. Alors le gars se dit, c'est quand même formidable, une malade de 74 ans qui fait une grossesse extra-utérine, déjà c'est pas courant, si en plus elle change de groupe sanguin tous les 3 mois, ou tous les 4 mois, il faut absolument faire une communication à l'Académie des sciences. Puis quand même, il a vérifié avant ça, et trouver que c'était pas ça exactement, c'est tout simplement une brave grand-mère algérienne vivant en France qui fait venir toutes ses petites filles, les unes après les autres, pour être soignées dans les hôpitaux français, parce que c'est vrai qu'on est sans doute mieux soignés que dans les hôpitaux de là-bas. Et elle leur donne son numéro de sécurité sociale. Je sais pas comment ça marche d'ailleurs, parce qu'ils devraient bien regarder, étant donné que le deuxième chiffre du numéro de sécurité sociale, le premier indique le sexe, ce qui interdit à cette dame d'envoyer ses petits-fils. C'est déjà une économie. Mais le deuxième indique la date de naissance. Alors elle doit avoir 2-20. Et quand on voit arriver une jeune fille de 20 ans et qu'on s'aperçoit d'après son numéro de sécurité sociale qu'elle a 74 ans, d'après ce numéro, on doit quand même se poser des questions. Je pense, moi, je ne sais pas si j'étais dans un hôpital administrateur, je me poserais des questions. Mais peut-être que ce n'est pas prévu dans le programme des administrateurs des hôpitaux. Voilà, un auditeur nous dit « J'habite Gennevilliers, le trafic de drogue a lieu partout, jusque dans les escaliers des immeubles. Ceux qui se promènent avec leurs chiens très méchants délimitent ainsi leur territoire. Les chiens sont une arme comme les autres. » Oui, c'est vrai. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un chien, enfin que ma femme a un chien, parce que c'est une arme. Mais je pense que si on veut expulser quelqu'un, c'est plus simple d'expulser les trafiquants de drogue et leurs chiens que d'expulser les chiens tout seuls. Pour une raison simple, c'est que, encore une fois, les avis d'expulsion, les chiens ne vont jamais pouvoir les lire. Et ça m'étonnerait que leur mette leurs 10 ans de plus. Voilà. Et bien maintenant, écoutons un peu de musique.
Vous avez cru tout effacer dans votre geste, mais il me reste mille témoins des jours passés. Un peu de vous partout qui traîne m'apporte les joies et les peines. Ce vieux billet, chéri, qui me rappelle les nuits à bord du Normandie si belle. La lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous. Ce doux refrain d'amour que Crosby chante, bon, 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 le vent du soir là-bas qui se lamente, et votre porte close, ces petites choses me parlent de vous. Chérie, pourquoi m'avoir quitté? Pourquoi m'avoir quitté après ce que nous avons été? Ce toi et moi écrit à notre image, ouvert ce soir à la dernière page. Partout où mes yeux se posent, des petites choses me parlent de vous. Lorsque la cloche sonne, ce vieux boudoir où ne vient plus personne. Partout où mes yeux se posent, des petites choses me parlent de
Bah, c'était Monsieur Sablon. C'était quand même un drôle de bon chanteur. Hein.
Il chantait pas fort, mais il chantait très bien.
Alors, il a été l'inventeur du micro sur scène.
Micro, et on a vu les ravages et les grandes qualités que cela a.
Alors, ça commence avec Jean Sablon, ça finit avec Vanessa, effectivement.
Mais ça a été, il a eu des chansons absolument merveilleuses, douces. Je tire ma révérence, je chante ça très mal.
Oui, on va peut-être... plutôt parler de l'actualité.
Oui, même plutôt.
Vous avez reconnu la voix de Mathieu Huguenet, Marc Aimer. Alors, c'est les deux qui sont venus ce soir pour parler de politique et de finances et d'économie. d'économie politique. Je voudrais quand même revenir une seconde sur ce que je disais tout à l'heure, parce que à propos de la sécurité de monsieur Pasqua qui annonce qu'il va faire qu'il va balayer. C'est ça qu'il a dit.
Oui,
hein.
Un coup de balai.
Il va donner un coup de balai dans les banlieues agitées. Et je ne sais pas pourquoi il se fatigue lui-même, parce que il n'a qu'à faire appel à une société de nettoyage. Puisqu'à Fréjus, d'après présent, il a fait appel à une société de gardiennage pour protéger le commissariat.
Alors, il pourrait commencer à donner des coups de balai en donnant des contredanses, c'est tous ces gens-là.
Mais c'est quand même extraordinaire. C'est une société privée de gardiennage qui protège le commissariat de Fréjus. Et c'est une société privée de je sais pas comment dire, de postage, de courriérage, je sais pas comment on peut appeler ça, qui assure la distribution du courrier du ministère, enfin de l'administration publique. C'est-à-dire que les fonctionnaires reçoivent maintenant leur fiche de paye plus tôt parce que le ministère a confié ça à une société qui s'appelle Dynapost et qui travaille plus vite que la Poste.
Oui, c'est DHL qui vous fait parvenir le courrier 3-6 fois plus vite que...
Avant que vous l'ayez écrit.
Avant aussi, le gros avantage.
C'est ça qui est formidable. Plus et ça, pour moi, c'est vraiment un avantage merveilleux d'avoir un service postal qui livre le courrier avant que je l'ai écrit, parce que ça me permet
de gagner beaucoup. Mais on revient aux policiers privés, qui sont toujours meilleurs que les policiers publics.
Alors, mon cher Marc, vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Et j'aimerais bien que vous me disiez en deux mots quelle réflexion vous inspire la délicieuse affaire Whitewater. Alors, très vite, on peut dire de quoi il s'agit.
C'est la promotion immobilière au petit niveau dans l'État d'Arkansas, dont le gouverneur était M. Clinton.
Déjà, ça, c'est Madame Clinton faisait des investissements immobiliers dans l'État.
Dans Whitewater, c'est l'eau blanche, l'eau écumeuse, c'est très amable.
L'eau trouble.
Oui, mais on voit toujours eu l'eau dans les Whitewater. Il y a pas parfois des boat people dans les Whitewater, mais je serais président des États-Unis, j'éviterais, si je voulais qu'un de mes innombrables enfants devienne président des États-Unis, j'éviterais de la faire investir, d'aller dans une école qui a le mot hauteur dedans, d'acheter du camembert californien qui porte le mot hauteur, parce que dès qu'il y a hauteur quelque part, au bout du compte, lorsqu'on devient président des États-Unis, ça fait un scandale.
Ça fait un Watergate.
Alors, Watergate, Whitewater, c'est une affaire un peu sordide, dans laquelle la première dame de l'Arkansas, a profité de la position de son mari avec l'acquiescement de celui-ci, avec tous ses petits copains de l'Arkansas qui ont mis leur doigt dans le gâteau. Et puis, bon, les choses en seraient restées au niveau de l'Arkansas si le gouverneur, par un coup de baguette magique, était devenu président des États-Unis.
Alors, ce qu'on reproche finalement à Clinton, au couple Clinton, c'est d'avoir, d'une part, permis à Madame d'investir de l'argent dans une affaire de promotion immobilière qui se déroulait sur le territoire de l'État dont son mari était gouverneur.
On se croirait dans le Var.
Oui, on se croirait dans le Var, exactement. Ensuite, d'ailleurs, l'affaire ayant fait faillite et Madame Clinton ayant perdu quelques sous, le président de l'affaire en question de ce groupe Whitewater était également président d'une caisse d'épargne locale, et il semblerait que le gouverneur soit intervenu pour éviter la faillite de la caisse d'épargne en question. Ensuite, le gouverneur Clinton étant devenu président des États-Unis, il semblerait qu'il ait mobilisé ses hommes pour arranger l'affaire et l'étouffer, au point d'ailleurs que tout ça a fini par aboutir à un suicide.
Alors dans ce suicide, il y a des choses tout à fait passionnantes, parce que on connaît le suicide habituel du type qui se tire un coup d'escopette dans le dos. Celui-là s'est tiré une balle de 38 spéciales dans la bouche. Il n'y a pas de sang. sur l'arme, il est tombé et on a retrouvé. Donc, il était debout quand il a tiré, il s'est tiré une balle dans la bouche et on l'a retrouvé par terre avec l'arme dans la main. Alors, essayez de vous tirer un coup de 38 spécial dans la bouche et de conserver, de mourir en conservant bien dans la main votre revolver et de vous retrouver allongé. Généralement, quand on est debout, on se tire une balle dans la bouche, bon, plop, 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 et on lâche toujours son arme qu'on retrouve à 1m50 ou 2m, mais pas dans la main et pas dans la position allongée droite qu'avec le personnage. Je veux dire, selon tous les spécialistes, tous les médecins légistes dont j'ai beaucoup dans mon entourage, il est impossible que ce personnage se soit suicidé.
Ben, on se croirait vraiment en France.
Dans le Var West.
Oui, c'est le Var West. Et puis même en France, un peu partout, sur les bords de la Nièvre, aux étendues rompues, boulevard. Comment s'appelait le boulevard où Monsieur De Broglie
c'est, ah oui, dans le 17e. Ça se passe généralement ou sur la Côte d'Azur, dans les bons quartiers. Avant du temps de Simenon, ça se passait à Pigalle. Maintenant, les assassinats sont plus chics.
Ouais, c'est depuis que c'est les UDF qui s'en occupent. Oui, c'est quand même un parti. Je veux dire, c'est pas l'UDF qui s'occupe des assassinats, c'est lui qui s'occupe de fournir les victimes, c'est ça que je voulais dire. C'est un parti de victimes. Faut être bien clair. Bon, on va peut-être parler d'autre chose. Il se trouve, mon cher Marc, que vous avez très bien connu quelqu'un qui vient de disparaître et qui est quand même une sacrée figure de l'histoire contemporaine.
Le chacal.
Le chacal. L'homme qui a donné la base du livre de Frédéric Forsyth, Le Chacal, qui raconte la traque, l'obsession d'un homme qui veut tuer De Gaulle à tout prix. Et ce personnage, c'était Vatin, dit la boiteuse.
La boiteuse, c'était un personnage tout à fait passionnant. D'abord, il avait une gueule, c'était Frankenstein, il n'avait pas les boulons, mais on pourrait très bien imaginer les boulons. Et à côté de ça, donc, c'est un énorme type avec un coup. Moi, je l'ai connu très bien dans sa Thébaïde du Paraguay. Il est arrivé au Paraguay pour une raison simple. Il était réfugié, il avait le droit d'asile en Suisse après l'affaire de Petit Clamart, et les Suisses l'ont gardé au frais, donc ils l'ont mis à l'ombre, et même les prisons suisses, ça n'amusait pas follement Vatin, qui était un cultivateur de la mitidja, qui avait les mains avec plein de terre dans les mains, et plein de terre d'Algérie, ce qui explique pourquoi, je veux dire, son amour profond du sol algérien, et puis c'était physiquement un personnage, c'était un physique, c'était pas un grand intellectuel. Et bien qu'il adorait parler, il adorait raconter des histoires.
Il était extrêmement religieux aussi. Il était.
Je l'ai pas personnellement non, jamais vu à l'église. Il habitait à Asunción, un hôtel qui s'appelait le Plaza sur la place Uruguay, qui était c'était une place qui n'était pas froide, si j'ose dire.
Oui, mais on peut habiter Pigalle et aller au Sacré-Cœur.
Il pouvait aller au Sacré-Cœur.
Je sais qu'il était très religieux, parce que c'est le récit qui est fait par beaucoup de gens qui l'ont connu. Et d'ailleurs, à ce propos, je signale que prochainement, une messe sera dite à sa mémoire. Je donnerai les indications relatives à cette messe au micro et dans le journal.
Et donc, Vatin était en prison en Suisse. Les Suisses, ils ont refusé l'extradition, contrairement à ce que quelques affaires récentes. Ce qui montrait le courage de la Suisse vis-à-vis, on dirait que c'était une tentative d'assassinat politique, et il n'était donc pas possible de le remettre aux autorités françaises. Et il a cherché vers quel pays pouvoir diriger ses pas. Il n'a obtenu aucun visa, où que ce soit, sauf d'un pays d'Amérique du Sud, qui était le Paraguay de Stroessner, qui lui a accordé un visa permanent de réfugié politique.
C'était donc quand même assez sympathique de la part de Stroessner, le général Stroessner, qui a invité à se réfugier chez lui quelqu'un qui avait essayé de tuer un général. Pourtant, ça aurait dû le rendre prudent.
Non, mais le Paraguay n'est pas ce que l'on dit dans tous les journaux de gauche ou même de droite, que c'est un refuge de toute la canaille de la terre. Pas du tout. Ils reçoivent tous ceux qui, je dirais, ont... Même Tout dépend du crime commis, à condition qu'il vienne pour un peu l'agent étrangère, pour refaire une vie qu'il n'ait pas ni de crime sexuel, ni de crime honteux, entachant l'honneur, mais tant qu'ils ont commis quelques escroqueries qui n'ont pas conduit 300 personnes au suicide, et qu'ils ont des raisons, et qu'ils ont eu une attitude politique qui n'est pas détestable, pas communiste ou pas gauchiste, à ce moment-là, ils étaient très bien reçus, on leur donnait le droit de travailler, et puis se débrouiller. Alors lui, il est arrivé, en plus le Paraguay lui a plu, comme à tous les Français qui ont un peu de cœur, et il s'est mis à travailler comme cantonnier, et puis ensuite comme contremaître cantonnier dans la... On construisait alors la première route, Stroessner faisait construire la première route au Paraguay, c'était vers la route asphaltée, j'entends, moderne, c'était vers 1965 à peu près, qui était la route entre Asunción et Encarnación, qui était tout bêtement la ville de naissance de Stroessner, qui en plus était à ce moment-là deuxième ville du pays. Et puis il a travaillé là, à la route, pendant 3 ans, et puis ensuite il a eu des petits boulots. C'était d'ailleurs une société française, c'était Dumès qui construisait la route. Il a eu des petits boulots, il a fait venir sa femme, et puis il s'est occupé ensuite, moi je l'ai connu à ce moment-là, de conseiller les Français dans, comme il était agriculteur, donc il est devenu ingénieur agronome, et il conseillait les Français dans l'acquisition de terres ou la mise en valeur d'haciendas qui parfois n'étaient pas toujours des haciendas, qui étaient un peu des haciendas un peu fantômes. C'était difficile de mettre en valeur des haciendas fantômes.
C'est-à-dire qu'elles étaient très loin et on ne connaissait pas vraiment la route.
Exactement. Mais ça l'amusait beaucoup. Parce que c'était vraiment très drôle.
Certainement, ça l'amusait certainement plus que les gars qui avaient acheté les haciendas.
Et je me souviens, la dernière fois que nous avions déjeuné ensemble dans un restaurant d'Asunción, qui est le Bolsi, qui était l'ancien café de la Bourse, mais qui avait été racheté par un Italien qui s'appelait Bolsi. Alors, la Bolsa, c'est devenu le Bolsi. Et là, il s'était lancé dans l'élevage des poulets, ce qui était un personnage qui a été recherché par tous les policiers de France. Il a fini dans éleveur de poulets. Et puis ça n'a pas bien marché. Et puis après, vous en tirez ça. Et puis après, il a eu des problèmes. Il a essayé de faire des petits trucs. Il a eu un petit peu. Il a été pendant 3-4 ans après la route. Il a été conseiller des services techniques de la police paraguayenne. Mmh. Alors, les services techniques, c'était ceux qui s'occupaient de faire causer ceux
services qui techniques, les aspects techniques de la fonction policière,
les aspects techniques de la fonction policière,
le pédalier, la plomberie, enfin, des choses comme ça.
Matin les a conseillés un certain temps avec une grande énergie.
Si j'en crois ce qui m'est rapporté par des amis qui l'ont très bien connu, en fait, il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire parce qu'il suffisait qu'il arrive dans une pièce pendant un interrogatoire pour que le gars, retrouve la mémoire.
Il avait un rire tonitruant. Oui. Il faisait et c'était un petit peu adorable. Il n'aurait pas fait volontairement du mal à une mouche, mais peut-être à un communiste.
Sauf pour la faire parler.
Et les mouches, vous savez. Et puis ensuite, et ben après, l'un derrière l'autre, comme il marche, ce truc de poule, il marchait plus, sa femme l'a quitté, et puis, bon, il détestait pas
la guardienne?
La guardienne, non, mais les personnes du sexe opposé au sien, ce qui n'est pas totalement répréhensible. Et puis, ses ressources se sont amenuisées. Les Français de là-bas l'ont absolument pas aidé. Finalement, à partir de l'amnistie, il a reçu une petite pension qui lui venait de France, via l'ambassade, de 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, même au Paraguay, on peut vivre très bien. Bon, on peut vivre bien au Paraguay, mais vraiment pas dans le luxe. On vit comme un Paraguayen. Il a loué une chambre dans une petite maison à San Lorenzo, qui est à 15 kilomètres d'Asunción, et puis c'est là qu'il est mort. Mais complètement délaissé par tous les Français là-bas, si ce n'est, ce qui est quand même étonnant, par l'ambassade de France.
Alors, je voudrais dire qu'on en a parlé d'une façon un peu plaisante, sur un ton badin, mais il faut quand même imaginer ce qu'a pu être la vie de cet homme. Et je voudrais dire que s'il y avait plus de Français comme lui, on ne serait peut-être pas dans une situation telle que celle qu'on connaît aujourd'hui. Car c'est une forme de modèle. Alors on va me dire, bon, c'est un assassin. Ce n'est pas un assassin, c'est un combattant politique qui est allé jusqu'au bout de son idée, jusqu'au bout de sa passion, jusqu'au bout de son exigence. Et il a considéré justement, à juste titre, qu'une parole avait été donnée, que cette parole devait être tenue, et que l'homme qui avait renié cette parole et qui avait trahi un peuple entier devait être puni. Et il a consacré sa vie, alors que c'était, comme vous le disiez Marc, un homme de la terre, un homme simple, c'était pas un intellectuel, c'était pas un révolutionnaire, c'était pas un homme qui voulait changer la société.
Non.
Il a consacré sa vie à cette obsession, à cette folie, on peut dire, de vouloir faire payer la note à celui qui l'avait rendu malheureux et qui lui avait
volé sa terre. Exactement. Et il avait en même temps une sorte de ressentiment contre celui que son ennemi appelait les veaux, contre la majorité des Français, si bien qu'il est revenu après son amnistie, il a essayé de se rétablir en France, il est venu, je crois, un an et demi en France, et puis à ce moment-là, il m'avait appelé une fois, c'est la nostalgie du Paraguay qui l'a emporté, et il est reparti là-bas.
Voilà, alors je répète que on est en train de préparer une messe à la mémoire de Vatin, dit la boiteuse.
Dit le chacal.
Dit le chacal. Je dois dire que ces deux surnoms lui vont à peu près comme un tablier à une vache. Parce que.
Il n'était pas très féminin.
Il n'était vraiment pas très féminin. Et en plus, c'était pas du tout un chacal. Au sens qu'on donne habituellement à ce mot. Je ne sais pas quel animal on pourrait. C'était plus un rhinocéros.
Ou un tapir.
Oui, c'est ça.
C'est le tapir des animaux de la forêt
parisienne. Les plus dangereux.
Il ressemble tout à fait. C'est un gros animal solide. C'était un peu vatin.
Et puis, puisqu'on est en Amérique du Sud, en Amérique latine plus exactement, j'aimerais bien que vous nous donniez des nouvelles de vos amis les zapatistes. Alors, on a découvert que d'ailleurs leur chef s'appelait Marcos.
Marcos qui était pesé sur vous. Avec Mathieu et le prénom masculin.
Ce qui fait peser sur vous les plus lourds soupçons, d'autant qu'il est cagoulé en permanence.
Voilà, en plus, il a quand même un alibi, c'est qu'il a les yeux couleur de miel.
Excusez-moi, une seconde, je précise aux auditeurs que dans 5 minutes, on parle de parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent sur la bourse, sur les finances, sur tout ça. Donc dans 5 minutes, on en parle, bien sûr.
Mais parler des apatistes, c'est parler de la bourse, car la bourse de Mexico est une des bourses émergentes les plus importantes, et donc la situation et la présence de ce qui se passe dans le Chiapas est importante pour la bourse de Mexico, et que ça s'arrange pour le meilleur, aussi bien pour les Indiens que pour l'État mexicain en général, il y en a beaucoup là-bas, est important donc pour la tenue du marché de Mexico.
Alors ces apatistes, on a eu l'impression au début que c'était une espèce de petite rébellion locale d'une poignée de péquenauds arriérés, et puis finalement ça semble prendre
des proportions. D'ailleurs, tout le monde l'a dit, sauf nous, puisque nous avons été parmi les premiers à expliquer que c'était pas une affaire anecdotique, mais quelque chose de très important. Ils sont tellement importants qu'ils sont arrivés donc Canossa se retrouve maintenant à San Cristóbal de las Casas. C'est là, par personne interposée, c'est le président Salinas, c'est le président du Mexique, c'est quelque chose qui est venu à accepter quasiment toutes les demandes des zapatistes, et surtout de ce personnage, car ce qui démontre encore une fois qu'on ne fait une révolution que lorsqu'on a un chef. C'est la doctrine du chef, on la retrouve Führersbefehl, mais c'est tout à fait vrai dans le cas de Marcos. S'il n'y avait pas eu Marcos, les zapatistes ne seraient pas sur la voie de gagner. C'est un personnage, en plus, il a eu l'intelligence. Je suis un mythe génial. J'ai lu dans la presse française génial en espagnol, ça ne veut pas dire génial. Je suis formidable. C'est un génial, c'est formidable, mais il se prend pas pour le génie de là. Mais l'idée d'avoir mis ce passe-montagne, qui s'appelle un balaclava en anglais, peut-être qu'il a la charge de balaclava, il lui mettait un chat sur la tête. D'abord, ça renouvelle, mais c'est Zorro.
Oui, tout à fait.
C'est Zorro à l'envers. C'est-à-dire que Zorro se cache juste il laisse les yeux. Mais donc c'est l'antimatière de Sorrow, qui est
le renard.
Il est grand, Il parle bien, avec l'accent de Mexico, semble-t-il. On pense qu'il a été journaliste. On pense qu'il est jésuite.
Ah, c'est pas le meilleur point de la série.
C'est pas le mais.
Et c'est bien Philippe. Philippe, il aime bien les jésuites.
Bon, moi, j'aime bien les jésuites. Ah, je serais-ce que parce qu'ils ont permis au Paraguay d'exister.
Vous connaissez les. J'ai déjà dû raconter ça. L'histoire du. Enfin, une des innombrables histoires de franciscains et de jésuites. C'est un franciscain qui regarde un jésuite qui est en train de dire son chapelet, parce qu'il paraît qu'ils disent quand même leur chapelet, en fumant. Alors, le franciscain dit au jésuite, écoutez, c'est incroyable, votre supérieur vous a donné l'autorisation de fumer en disant votre chapelet ? Ah non, dit le jésuite, pas du tout. Ah, non, non, il m'a donné l'autorisation de dire mon chapelet en fumant.
Mais c'est tout. Voilà. Ce qui est passionnant, les jésuites, c'est qu'ils sont peut-être tout ce qu'on veut, mais ils sont intelligents. Il y a une intelligence, une adaptation des jésuites au terrain.
Alors, un journaliste jésuite, il cumule.
Il a une manière. Vous savez, c'est devenu un mythe tout à fait au Mexique. On vend les petites poupées indiennes que l'on vend dans les rues de Mexico, dans les rues de Chihuahua ou ailleurs, sont des petites poupées indiennes dans lesquelles qui ont toutes maintenant un passe-montagne.
Oui, il est en train de devenir un véritable mythe.
Il est sur les t-shirts. Il est même sur les t-shirts maintenant aux États-Unis. Ailleurs, c'est devenu c'est ce qui était un peu, mais lui a mal tourné. Mais il y avait un peu le mythe du Che. Et puis avant le tous ont eu une idée. La barbe de Fidel Castro. Mmh. Je me couperai la barbe que quand je prendrai le pouvoir. Et c'est là qu'il a commencé à mentir. Il a pris le pouvoir, il a gardé la barbe.
Oui.
Le Che, c'était un petit Argentin, on les prend pas au sérieux, les Argentins. Lui, c'est un grand Mexicain, et en plus, c'est le grand chef blanc, parce qu'il n'est pas indien. C'est le grand chef blanc chez les Pygmées.
C'est un grand mythe.
C'est un grand mythe. En fait, ça fait rêver tout le monde. Exactement. C'est également celui qui vient d'ailleurs. Tous les dieux des Indiens viennent d'ailleurs, et lui vient d'ailleurs pour diriger les Indiens. Il parle admirablement. Moi, j'ai entendu l'autre jour, avec une sorte de lyrisme qui touche beaucoup les hispano-hablantes, et il est en train de se créer...
Les hispanisants,
oui. De devenir un personnage, et il est en train de gagner.
Donc à suivre...
À suivre, mais on connaît...
Sous-commandant Marcos. Oui, il a l'astuce
de mettre en dessous. mais on ne sait pas qui est le commandant.
Alors, l'information que je cherchais tout à l'heure, effectivement, c'est Louis de Broglie a été. C'est pas Louis, c'est Jean de Broglie. Je finis par plus savoir. De Broglie. Le prince de Broglie a été assassiné rue des Dardanelles. Oui.
Mais beaucoup de gens sont morts aux Dardanelles. C'est une rue.
Je ne sais pas si c'est Pasqua qui appelle, mais en tout cas, il dit au lieu de critiquer Pasqua, Beckett devrait être maire dans l'une des cités, au lieu de le faire de la stratégie dans un fauteuil.
Bon, c'est ce qu'on dit toujours aux journalistes.
C'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord pour devenir maire de Gennevilliers, mais vous me donnez les moyens, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être très joli. Notamment sur le plan financier, je pense que je vais redresser les finances de la commune assez rapidement. Alors, maintenant, oui, on me demande de préciser que Pierre de Villemarais a parlé longuement de l'affaire Whitewater dans le journal Monde et Vie et dans l'émission de Claude Giraud, bien sûr. Et il a précisé, mais nous l'avons fait aussi, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un scandale financier, mais aussi d'une affaire dans laquelle il y a un mort. Et il y a soupçon de meurtre, donc. Voilà. Et puis, on me demande de rappeler que tout récemment, M. Éric Raoult, qui est un des bras droits de Pasqua, parce que Pasqua est comme la déesse Siva, il a plusieurs bras droits.
Oui, il y a plein de déesses qui ont de... Il est peut-être sa Shakti, qui est celle qu'il tient dans les bras et qui a beaucoup de bras, parfois.
Et donc, M. Raoult a dit que le problème de l'immigration était réglé.
Ah bon, moi, c'est une bonne nouvelle.
Si vous avez un problème avec l'immigration, c'est pas possible.
Je pense qu'il est réglé, puisque maintenant, on leur interdit de sortir.
Oui, ah ben oui.
Il faut des visas de sortie. Donc, c'est quand une fois qu'on les a, on ne veut plus les laisser.
Voilà, alors maintenant, venons, si vous voulez, on abandonne Marc Aymer, où il peut sortir du studio.
Bien.
Et on se retrouve avec Mathieu Huguenet pour parler de la situation économique, financière, boursière en général. Alors, d'abord, des questions qui vont nous permettre de faire de la charnière. Un auditeur nous demande quel est, à votre avis, l'avenir boursier du Chili, de l'Uruguay et de l'Argentine. Je crois qu'on pourrait dire de l'Amérique
latine. Il a oublié, je suis désolé. C'est le cône sud, donc c'est le il ne faut pas oublier le Paraguay, qui a maintenant une petite bourse qui deviendra grande, mais qui sera une bourse intéressante dans les 10 ans à venir. Sont les 4 pays les plus... pas une question de partialité, mais c'est les 4 pays qui sont fascinants pour des Européens et pour des Français en particulier, car ce sont des pays entièrement blancs, même dans le cas du Paraguay, ils sont à 95% indiens, mais c'est des Indiens tout à fait tellement particuliers qu'ils ne ressemblent ni à personne.
Comment on les appelle des Guarani.
Des Guarani.
Ils parlent russe.
Beaucoup, non, pour une raison simple, Serge, c'est que le Paraguay, qui est encore une sorte de truc, le Paraguay, c'est pas un pays, ça donne des coups de cœur aux gens qui ont du cœur, si j'ose dire, si bien que les Russes, lorsque le Paraguay s'est battu, a commencé sa guerre pour le Chaco en 1935, qui a duré 4 ans contre la Bolivie, qui était 6 fois plus peuplé et 50 fois plus riche, parce que c'était l'époque de l'étain, etc. Et si bien qu'ils avaient pu se payer un général et tout un état-major allemand, commander le général Kunt, et ils pensaient faire une bouchée du Paraguay, et ce sont les Paraguays qui ont fait 5-6 bouchées et une boucherie des Boliviens dans une guerre qui était épouvantable, parce que ça se passait dans le Chaco, dont il n'y a pas d'eau, et la plupart des soldats sont morts de soif, leur commandant est le futur maréchal Estigarribia, bien élève de Foch, et c'est pourquoi les Paraguayens disent toujours que c'est la tactique française de Foch qui a gagné contre la tactique allemande de Kunt et donc de Ludendorff.
Pour une fois qu'on a foutu la pâtée aux Allemands.
Et l'armée paraguayenne, pendant la guerre du Chaco, partait à la bataille en chantant Patria Querida sur la musique de la Madelon.
Ah. Donc ils sont passionnés de Russie.
De très très nombreux Russes blancs, quand la guerre a commencé, que les anciens jeunes officiers cadets de la garde, qui étaient tout jeunes encore à l'époque, quand ils ont vu cette guerre éclater, que quelques Russes, rares Russes qui étaient au Paraguay à ce moment-là, leur ont dit c'est une guerre magnifique, ils sont venus, donc des centaines d'officiers de l'armée du Tsar sont venus, et se sont engagés dans l'armée paraguayenne, sont rapidement devenus officiers, et ils se sont couverts de gloire, si bien que le dernier ambassadeur paraguayen en France, qui a un ami qui est toujours ici, qui a demandé le droit d'asile, le dernier ambassadeur du gouvernement de Stroessner, était Ivan Evrainov.
C'est un nom typiquement paraguayen.
Et ils deviennent complètement... Alors, ce qui est formidable, c'est que le Paraguay est le seul pays d'Amérique où on parle une langue indienne officiellement, donc le Guarani, et le U du Guarani, et le U du russe, si bien que les Russes, parmi tous les peuples européens, sont les seuls qui ont la faculté, en tout cas, de prononcer bien le Guarani, ce qui aide.
Alors, bon, tout ça nous a éloigné des affaires financières, mais je réitère ma question.
Donc, les quatre pays du cône sud, ce qu'on appelle le cône sud, tout bêtement parce que ça ressemble à un cône, c'est l'Argentine, c'est le Chili, l'Uruguay et la base du cône qui est le Paraguay. Ce sont donc des pays où il n'y a pas de minorité noire. Donc c'est l'Europe, mais ce qui est extraordinaire lorsqu'on arrive à Buenos Aires ou lorsqu'on arrive à Santiago, on retrouve ce que devait être l'Europe, pays non colonial, parce que la France déjà avait beaucoup d'Arabes, où il n'y a que des Blancs, il n'y a que des Européens, et ça se ressent sur la façon de vivre, sur l'économie.
Alors, et la bourse.
Et sur la bourse. Donc,
alors, est-ce qu'on peut faire fortune dans le cône?
On peut faire fortune dans le cône sud, un peu moins peut-être, j'ai pas beaucoup de confiance à l'Uruguay, parce que les Uruguayens sont des gens auxquels on ne peut pas faire confiance.
On vient d'en avoir la preuve,
mais je crois que là le problème, je fais une petite aparté sur l'affaire de Jacques Médecin, Jacques Médecin a choisi l'Uruguay parce qu'il est niçois. Alors l'Uruguay, tous les Sud-Américains savent, los uruguayos son hijos de puta.
On traduira pas.
On ne peut pas leur faire confiance.
Ça veut dire que les Uruguayens.
On peut pas leur faire confiance. Ouais.
Sauf ceux qui nous écoutent, bien entendu.
Qui sont charmants. Super viel, etc. Mais c'est des gens adorables, mais auxquels on ne peut pas faire confiance. Et il a choisi d'aller à la Punta del Este, parce que Punta del Este, ça ressemble à la Côte d'Azur. Sans sécurité. S'il avait été au Paraguay, il y serait encore. mais il n'y a pas de maire au Paraguay. Alors vous comprenez que l'ancien maire de Nice ne peut pas aller dans un endroit où il n'y a pas de maire. C'est oui, tout. Bon. Petit aparté. La bourse de l'Argentine. Oui, l'Argentine est un pays d'une immense richesse qui a pu supporter une richesse terrienne. Et c'est très, je dirais que c'est très droitier d'avoir une richesse qui est à base tellurique, c'est la terre. Si bien que lors de l'époque de la plus grande hyperinflation en Argentine, 10 000% d'inflation, la terre ne ment pas, comme disait l'autre. Et on attend que l'inflation se termine, et puis la terre retrouve la valeur qu'elle avait. Il y a des gens qui ont fait des fortunes très grandes en achetant tout bêtement au moment de la plus terrible inflation, ou bien des estancias, ou bien tout bêtement des appartements dans l'Avenida Libertador, qui est l'équivalent de l'avenue Foch, qu'ils ont acheté pour 3 millions, ce qui était rien, en francs, l'équivalent en francs, et qui maintenant ont repris leur valeur, qui est 10 fois plus. Les imbéciles sont ceux qui ont vendu. Donc vous avez la bourse de Buenos Aires qui est une bourse qui est haussière, qui a de temps en temps des bas, de temps en temps des hauts, mais qui sur le long terme est très haussière. C'est le cas également de celle de Santiago qui est, et en plus aussi bien l'Argentine que le Brésil ont toutes les richesses minières que l'on peut imaginer, et ce sont des pays tempérés. Ce qui est également important, et il y a un potentiel. L'Argentine, qui était, on l'a rappelé souvent, avant la guerre de 14, le pays du Nouveau Monde le plus développé après les États-Unis, bien avant le Canada, et repart après toute une longue période de marche arrière, et reparti de l'avant pour être de nouveau, d'ici quelques années, le deuxième pays du continent américain.
Donc on peut, à votre avis, s'intéresser à ces marchés
tout à fait.
Sans courir trop de risques.
Et sont des marchés, je dirais, comme tous les marchés, c'est un peu sur un air de tango, ce qui est tout à fait valable.
Donc, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, ou deux pas en arrière, un pas en avant?
Ça dépend des jours. Bon. Mais sur le long terme, c'est plutôt en avant.
J'ai oublié de dire la raison pour laquelle je vous pose ces questions sur les finances et la bourse et l'économie, c'est que vous êtes Mathieu Huguenet, le directeur-rédacteur en chef de la lettre...
Chief Cook and Bottle Washer, c'est-à-dire grand chef et nettoyeur de parquet
De la lettre bleue, qui est une lettre d'information économique... On peut se procurer, on peut la dire tout de suite.
Oui. Donc ça s'appelle la lettre bleue de Mathieu Huguenet, il y a ma photo dessus où je tire au fusil en disant visez juste et mettre en garde, ce qui importe en bourse. Et on peut, en m'envoyant une enveloppe timbrée ou pas selon votre richesse,
très franchement, je le dis aux auditeurs, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un timbre, je pense pas que les conseils...
Justement, si vous êtes riche, vous n'avez pas aucun intérêt de le devenir.
Ah, bon,
donc, ceux qui ne peuvent pas se payer la lettre à un timbre peuvent essayer de voler 2000 francs, ils s'abonnent à la lettre, et dans l'année qui suit, ils pourront se payer des actions de la privatisation des postes et téléphones et télégraphes français.
Très bien.
Donc, alors, je n'ai pas donné l'adresse.
Oui, donnez l'adresse.
16-18 Place de la Chapelle, 75-018 à Paris. Vous envoyez donc une enveloppe, timbrée ou pas, et je vous retourne le jour qui suit. La dernière parution de la lettre qui comporte en sixième page, en bas, un bulletin d'abonnement, 200 francs, 4 numéros d'essai, 700 francs, 13, 2000 francs, bienfaiteur, 52 numéros.
Mais normalement, vous vous engagez pratiquement à ce que les gains des opérations que vous conseillez remboursent l'abonnement.
En toute logique, ça devrait être beaucoup plus, parce que si 2000 francs par an en bourse,
c'est
pas suffisant. Il faut mieux jouer comme Monsieur Soros, gagner 50 milliards et éventuellement perdre 600 millions le lendemain.
On va parler de Monsieur Soros dans 3 minutes, mais avant, une question à laquelle je vous demanderai de répondre brièvement si c'est possible, parce qu'elle est purement technique. Et qu'est-ce que le second marché ou le marché bis demande à...
D'abord, marché bis, c'est quelqu'un donc, qui lit ou le journal que j'écris ou la lettre, parce qu'il n'y a que moi qui utilise le terme marché bis pour ne pas dire second marché. Second marché, c'est le marché, je dirais pas secondaire, c'est un marché qui a été ouvert il y a déjà une dizaine d'années, plus de 10 ans, d'affaires de... pas d'immense importance, d'affaires émergentes. qui prennent de l'importance, et vous avez donc, bon, ce n'est pas L'Oréal, ce n'est pas l'Air Liquide, ce sont des affaires qui sont, mais comme, ou des sociétés de développement comme Siparex, ou de des affaires très, très conséquentes, et on, c'est un peu plus risqué sur le second marché, parce que ce sont des affaires de moins grande envergure, mais on peut très souvent faire de plus grandes différences sur le second marché ou le marché bis que sur le comptant, et encore plus sur le règlement mensuel.
Bien. Alors maintenant, une autre question. Alors là, je pose la question, je ne comprends pas un seul mot de cette question.
Peut-être pas moi non plus.
Hein. J'espère que si, parce qu'on va avoir l'air bête. Que faire des six caves émergingues?
Ah, une très bonne question. Les cigaves en valeur en émergence, c'est celle que j'ai conseillée lorsque je suis venu ici, grâce à votre obligeance, il y a 2 mois. Et justement, je voulais en parler, j'en parle dans la prochaine lettre bleue. D'ailleurs, s'ils m'envoient cette fameuse enveloppe, ils auront la lettre de la semaine prochaine dans laquelle je parle des cigaves en émergence. Les cigaves en émergence, ils se trouvent. Bon, elles ont monté pendant... je prends l'exemple de la principale, qui est celle de State Street Bank, qui a été ouverte en novembre, 1er décembre 92. De 92 à janvier 93, elle a pris 10%, 15%. Et puis elle a passé 4 mois où elle a descendu de 25%. Et puis après, elle a pris 120%.
Oh là là là. Mais pourquoi on m'en est pas parlé? J'aurais cassé le cochon de mes enfants.
Et c'est là que je suis venu en parler il y a 2 mois. Elle a été presque à son maximum. Et puis, elle a, parce que tout le monde prend des bénéfices, et puis il se trouve également que depuis 3 semaines, il se passe des événements sur les marchés en émergence. Dans le sud-est, en gros, les marchés en émergence, ce sont ceux du sud-est asiatique. Pas Singapour, qui est un grand marché, mais Kuala Lumpur, Jakarta, etc.
Pensez qu'il y a une bourse à Kuala Lumpur, moi ça me fait rêver.
Et c'est la plus moderne du monde maintenant.
Ah bah, c'est la moindre des choses.
Mais la Malaisie, il y a près de 2 millions d'habitants. Hein,
on vient en traîneau à yak.
Kuala Lumpur, c'est en Malaisie, il fait chaud.
Bah oui, mais il y a des yaks, non? Non, comment on appelle ça?
C'est qu'à 1500 km, mais oui. Il y a une différence.
Les yaks rasés. Non, mais il y a ces animaux, c'est des buffles, quoi.
Ah, les buffles. Ah, voilà, c'est un yak qui a, c'est déshabillé.
Un yak
nu.
Donc, à Kuala Lumpur.
Donc, tout bêtement, les marchés avaient énormément monté, Manille, etc. Et il y a eu de gros dégagements, surprises de bénéfices. Bon, ils sont partis et reviendront. Et puis, en Amérique du Sud, c'est la baisse des l'augmentation des taux américains qui a fait refluer. Vous savez, comme les basses pressions, les hautes pressions, quand vous avez les taux qui montent d'un côté, les capitaux qui étaient descendus en Amérique du Sud pour gagner plus refluent vers l'Amérique du Nord. Mais ça durera ce que ça durera, et ils redescendront. Donc il ne faut pas du tout s'occuper de la baisse qui a pris 8%. C'est une baisse de 8%. C'est pas énorme. Elle pourra encore continuer. Et puis, dans les 6 mois qui viennent, de 20 000 francs qu'elle coûte actuellement, les actions se retrouveront à 30 000 francs. Il faut au contraire... D'abord, ce sont également des valeurs. C'est très important, ce type de SICAV, ce sont des valeurs spéculatives qu'il ne faut pas garder, qu'il faut garder sur le long terme. Ce qui est un peu en contradiction avec l'attitude qu'on doit avoir avec les valeurs spéculatives, mais comme ce sont des SICAV, il faut les garder au moins sur 2 ans, ce qui permet de lisser les pointes et également les chutes. Donc vous, en le gardant sur un assez long terme, sans s'inquiéter des montées et sans trop s'exciter des baisses, vous serez vainqueur et au bout de 2 ans, vous pouvez, disons, gagner 120 ou 130% sans aucun... En disant même que ceux qui en détiennent pourraient profiter de la chute actuelle pour se regarnir à meilleur prix. Alors, ce que j'ai d'ailleurs fait il y a quelques jours.
Un auditeur dit « J'ai suivi vos conseils en 90 ». Attention, là on commence à avoir peur.
Mais c'est pas suicidé, donc.
J'ai acheté Sogeparc à 470 francs. Il frise maintenant les 1000 francs et offre des tas de souscriptions préférentielles. Ben, je pense que cet auditeur pourrait, je suis sûr qu'il l'a déjà fait, mais enfin, après tout, pourquoi est-ce qu'il n'en profiterait pas pour payer sa cotisation à Radio Courtoisie? Des abonnements à des journaux, par exemple.
Mais ce Sogeparc est le type classique d'une affaire, logiquement bonnes. Ils fabriquent, ils construisent et ils gèrent et ils ont la ferme de parcs de stationnement. Or, ah, on construit de plus en plus de... Ça risque pas diminuer. Il y aura, quoi qu'on en dise, de plus en plus de voitures et de moins en moins de place où les mettre. Donc, les parcs de stationnement, ils vont faire une augmentation de capital ces jours-ci. C'est une très bonne valeur. Il faut pas la garder, en dépit qu'on on le dit régulièrement qu'il faut vendre tôt pour...
Il faut la garder.
Le moment n'est pas encore venu de vendre trop tôt.
Et... Alors, une ultime question, parce que nous n'avons plus de temps. Un conseil, là, maintenant, ou un conseil général ou un conseil particulier, ce qui vous amuse?
Il y a plusieurs choses. Il est très bien de prendre le contre-pied, le contre-courant des choses. On a beaucoup tapé sur les valeurs pétrolières. Il y a maintenant des valeurs pétrolières qui sont très intéressantes, comme la Royal Dutch, tout bêtement, qui reste sous-payée, qui est la principale, une des deux ou trois majors, qui a une réserve de hausse tranquille de 30 ou 40% dans l'année qui vient, et la Royal Dutch est acquérable à Paris aux étrangères du règlement mensuel. Ça ne pose pas le moindre problème. Il y a, pour faire son fromage, vous avez Bell, qui devrait continuer de bien marcher en dépit des problèmes du GATT et des restrictions sur les fromages. Bell ou bien la carbonique, qui est une autre, une valeur qui, elle, est au comptant.
Et qui fait quoi?
La carbonique possède Bell, tout bêtement. Et il faisait autrefois du carbone, comme son nom.
Elle fait
du fromage, pour faire les trous. Et la carbonique, ça permet d'acheter du Bell avec un discount de 35,
une remise,
vous êtes un adepte de Monsieur Toubon.
Pas vraiment, mais de
35 à 40%, donc, vous avez, et Bell, c'est la vache qui rit, donc c'est une valeur pleine d'optimisme.
Mais mon cher Marc, je vous remercie. Veuillez rappeler les coordonnées de la lettre. En un mot, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut acheter de l'or ou pas?
Il ne faut pas acheter de l'or, mais si on en a, il faut le garder.
Voilà. Bon, ben je vais garder tout ce que...
Gardez tous vos lingots, toutes vos barres.
Voilà. Et puis, il y a une question à laquelle vous pourrez certainement répondre. Qui s'occupe des actions des hommes politiques? Mais surtout, nous demande cet auditeur, qui est le plus riche? Si vous ne répondez pas, moi je réponds.
Le plus riche de nos hommes politiques? Fabius n'est pas pauvre.
Fabius, c'est un gamellard. Il mange dans une gamelle. C'est Mitterrand le plus riche. La plus grosse fortune de France, peut-être même.
Il doit être riche parce qu'il a de la chance. Non, mais hélas.
Oui. Il n'a pas que de la chance.
Cela dit, si vous voulez en avoir en bourse, je vous conseille fort de demander un numéro donc de la lettre bleue. Pour voir clair en bourse. Et donc, lettre bleue. Mathieu Huguenet, tout intelligemment, allons-y. 16-18 place de la Chapelle, 75-018 à Paris, et si je suis arrivé un peu tard, c'est que le 18e, c'est pas dans le 17e.
Oui.
Elfe Aquitaine, ben je suis pas très passionné d'Elfe Aquitaine.
Acheter
plutôt des chelles, c'est une bonne coquille, comme disait l'autre. Elfe est déjà assez cher et non pas de passion particulière pour Elfe.
Bien, ben je vous remercie.
On me demande que pensez-vous du compte à versement et retraite libre à faire. J'en pense on en a modérément du bien. Voilà
une chose, un bel understatement.
Exactement.
Merci mon cher Marc, merci mon cher Mathieu.
C'est moi qui vous remercie.
Donc pour en savoir plus, vous pouvez toujours demander un spécimen.
Vous voulez que je redonne l'adresse
de la lettre bleue, 16-18 place de la Chapelle. Un dernier mot, est-ce qu'on peut prendre des actions de lettre bleue? Parce que ça devrait marcher.
Pas encore, mais je vais la mettre sur le marché avant longtemps.
Alors un auditeur demande, et ça n'a plus rien à voir, nous parlerez-vous de l'élection à Nice avec les 34 voix d'écart entre les RPR et le FN. Je dois dire que j'ai pas grand chose à dire. Vous doutez bien de ce que je pense de cette situation. Je crois que il va être démontré une fois de plus que, contrairement à ce qui est répété par certains depuis des années, ce n'est pas le Front National qui fait le jeu des socialistes. C'est le RPR et l'UDF, c'est-à-dire la droite modérée,
qui se font élire systématiquement avec les voix des socialistes. Et je rappelle que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si, quand il arrive qu'il y a un affrontement entre un socialiste et un candidat du Front National, le RPR et l'UDF appellent systématiquement à voter pour le socialiste et même pour le communiste quand c'est un communiste. Donc, j'espère que Peyrat va gagner à Nice. Je dois dire que ce sera certainement très très difficile parce qu'il a contre lui la coalition des nantis, la coalition des bien placés, et puis la coalition des gens qui ont intérêt à ce que ça change pas trop quand même, parce que c'est évident que dans ce pays, c'est quand même pas très loin de hier, Nice. Il est évident que dans ce pays, si on se met à avoir des élus qui n'ont absolument aucune casserole, ils vont être drôlement difficiles à manipuler. Voilà ce que je pense. Alors maintenant, comme on n'est pas entendu à Nice, mon discours n'a que peu d'intérêt. Mais enfin, si j'étais niçois, je sais bien ce que je ferais. Je ne voterai pas pour le même candidat que les socialistes et les communistes, que ce soit bien clair. Dominique Dehaene, bonsoir. Vous venez ici pour nous parler de votre école, car vous êtes, alors j'imagine, directrice.
Oui, je suis directrice de l'école Saint-Jean Bosco.
Voilà, directrice Saint-Jean Bosco, qui se plaçait, comme son nom l'indique, sous le parrainage de Don Bosco, qui est un admirable éducateur, qui est un personnage dont la vie est semée d'événements miraculeux. Et qui est une leçon vivante pour les, enfin qui devrait être une leçon vivante pour les éducateurs en général. Alors, je dis tout de suite que on peut visiter votre école samedi prochain, 12 mars, à partir de 14h, puisque vous organisez une journée porte ouverte. J'imagine qu'il y aura une espèce de petite kermesse en plus.
Non, c'est réellement une journée, enfin une après-midi d'information sur l'école, entre 14 et 18 heures. L'école se...
Alors, on peut peut-être... Pardon, je vous ai...
Oui, non, je voulais simplement dire que l'école se proposait par ce moyen de faire connaître un petit peu ses méthodes.
Alors, on peut commencer déjà à la faire connaître ici. La première question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que pourquoi avez-vous choisi de faire une école hors contrat ?
Hors contrat, oui.
Bien, l'école, parce que c'est pas le plus simple.
Non, ce n'est pas le plus simple. Et en même temps, il faut bien savoir que la liberté de l'enseignement passe réellement par l'absence de contrat. Il n'y a aucune possibilité autre. Cette liberté, elle va être très importante sur deux points. C'est le point du choix, d'abord, des programmes, des méthodes. Je prendrai simplement l'exemple déjà des méthodes de lecture dont on parle tellement actuellement. L'Éducation nationale fait le constat depuis plus de 20 ans, enfin le ministère de l'Éducation nationale, depuis plus de 20 ans, de l'échec de la méthode dite officielle, donc globale ou semi-globale, mais aucun remède n'est pris. Et dans l'enseignement sous contrat, c'est obligatoire.
Je crois que c'est pour une raison très simple. C'est tout simplement parce que l'école n'est pas faite pour former les enfants, mais pour former des abrutis.
C'est
donc
un petit peu ça.
Qu'on est, au fond, il y a des gens là-dedans dans ce système qui sont très très contents que les enfants sortent et arrivent en sixième sans savoir lire.
Voilà, donc on prend de faux remèdes, mais on n'attaque pas le problème à la base.
Parce qu'on a reçu récemment... Mademoiselle Le Maire, qui a mis au point
la
méthode Jean Quiry. C'est vraiment, je vous assure que j'étais presque à pleurer de rage en pensant à ces centaines de milliers de gosses en France qui vont sortir de l'école sans rien savoir.
Absolument.
Alors qu'il existe une méthode comme celle-là qui est admirable, mm-hmm. qui est d'une simplicité magnifique,
oui.
et qu'il n'y a pas un gosse qui peut ne pas savoir lire après avoir suivi l'enseignement Jean Quiry. Donc c'est vraiment un assassinat. Comme dit Jean Madiran, à propos de la pornographie, c'est une des clés du génocide français.
Certainement, parce que c'est sûr qu'on sait maintenant qu'il y a 25% d'enfants entrent en sixième illettrés, et donc il faut, en fonction de ça, baisser peu à peu le niveau de l'enseignement.
Donc le refus du contrat vous met à l'abri de cette obligation. Vous pouvez utiliser les méthodes qui vous paraissent adaptées.
Voilà, c'est-à-dire la seule méthode dite analytique, qui est le fondement de la méthode Jean Quiry d'ailleurs, hein, mm-hmm. méthode telle qu'on a, enfin je pense qu'on
a tous
ici appris, voilà, B.A.B.A. Ça c'est seulement le hors contrat qui nous permet de le faire. Puis il y a un deuxième point très très important quand même, c'est le choix des maîtres. D'abord, si on choisit certaines méthodes ou certains programmes, il faut pouvoir choisir les maîtres qui vont être capables de les appliquer, donc les maîtres compétents pour ces méthodes et ces programmes. Et par ailleurs, si l'école, une école comme la nôtre, se fixe aussi un but d'enseignement religieux, catholique, il faut là aussi, si on veut que l'enseignement près des enfants soit cohérent, il faut là aussi que les maîtres partagent pleinement ce projet pédagogique. Ce qui n'est absolument pas le cas, ce projet spirituel, disons, dans l'enseignement catholique sous contrat.
Est-ce que ça veut dire que quand si quelqu'un vient vous voir en vous disant nous sommes musulmans, nous sommes athées, mais nous aimerions que notre enfant suive les cours dans votre école parce qu'elle nous paraît de qualité, vous dites oui d'accord, mais il suivra la formation religieuse
absolument.
Aussi.
Les enfants sont parfaitement, les parents sont parfaitement prévenus au départ que cette formation religieuse existe, que ce n'est pas un temps limité du programme, une heure par semaine auquel les enfants, dont les enfants peuvent être
dispensés. C'est intégré au cours.
C'est intégré. La journée commence par la prière. C'est l'institutrice qui fait faire la prière aux enfants dès le matin. Et la formation religieuse, le catéchisme, a lieu et fait aussi par l'institutrice, mais pas forcément à un temps donné. Et il imprègne un petit peu toute la vie de l'école.
Alors, pourquoi avez-vous limité vos ambitions au primaire ? Est-ce que c'est provisoire ou c'est un choix définitif ?
J'aimerais que ça ne soit que provisoire. C'est vrai que tout est important. Le primaire, c'est évidemment la base. Quand on sait qu'il faut le plus vite possible utiliser les neurones de l'intelligence si on veut qu'ils soient efficaces pendant la suite de l'existence d'un être humain, il est indispensable que dès le primaire, on forme les intelligences et on forme les enfants. On habitue les enfants à utiliser cette intelligence et à l'utiliser de manière logique. Donc, à tout à fait à l'opposé de ce que font les méthodes actuelles en primaire ailleurs, comme on le disait tout à l'heure. Donc, le primaire est essentiel. Toutes les catastrophes du secondaire viennent justement de cette faillite du primaire. Ça, on ne veut pas le voir non plus. Il est évident que moi, j'ai été professeur en secondaire et que je sais combien les méthodes aussi de l'éducation nationale peuvent être... une contre-formation pour un cerveau d'enfant. Donc ce serait vraiment avec une grande joie que j'ouvrirais une sixième. Mais c'est sûr qu'il faut, il faut déjà assurer l'existence d'une école primaire, que c'est extrêmement difficile, en particulier sur le plan financier.
Ça veut dire aussi que les enfants qui sortent de chez vous sont pratiquement, si j'ose dire, condamnés avec des guillemets, et s'il y a un sens positif à condamner, à poursuivre... dans des établissements hors contrat, parce que s'ils arrivent dans le public, ils doivent...
Non, pas du tout. Non, non, justement, alors Jacques Arnaud qui est là et qui est père d'élèves actuels et d'anciens élèves...
Jacques, explique-nous ce qui se passe. D'abord, pourquoi tu mets tes enfants... Bon, je précise qu'on est amis depuis... je préfère pas y penser. Donc, on se tutoie, voilà.
Voilà.
Entre autres, tu es père de famille d'ailleurs ultra nombreuse.
Non, pas ultra nombreuse, j'ai 6 enfants.
Oui, pardon.
Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Don Bosco ? Parce que j'ai eu, bien sûr, comme pas mal de parents, des expériences d'école sous contrat, d'école catholique sous contrat. Et avec ma femme, eh bien, nous avons trouvé que le catéchisme ne correspondait pas forcément à ce que nous souhaitions. Les fréquentations n'étaient pas très très bonnes dans ces écoles. Il y avait pas mal de gros mots, pas mal de violence dans les cours de récréation. Et puis, un mauvais enseignement de l'histoire de France. Et donc, nous avons choisi effectivement de mettre 2 filles à l'époque. Et maintenant, nous en avons 2, une en maternelle supérieure et une en dixième. Je dois dire que des 2 aînés qui sont passés par Don Bosco et qui sont actuellement en pension à la Légion d'honneur, qui est une pension quand même d'un niveau scolaire assez réputé, eh bien, elles se sont tout à fait faites à ce niveau. Elles ont passé les examens, ou même je crois qu'il y en a une qui n'a même pas passé d'examen, elle a été reçue sur livret. Et à la première réunion de parents d'élèves d'entrée en sixième, notre deuxième fille a été remarquée par la professeure de français, et ma femme a eu les félicitations donc de cette professeure de français de sixième pour l'excellence de sa formation en grammaire. Et ça faisait des années que cette professeure n'avait pas vu une élève avoir de telles bases solides en grammaire.
Quand je parlais de la difficulté de passer de ce système du hors contrat au système sous contrat, je voulais pas dire du tout que la formation scolaire hors contrat était bradé, c'est pas du tout ça que je pense. Je pensais que c'était plutôt une question psychologique. C'est pour un enfant qui a vécu dans cet environnement familial, très particulier, oui. Familial, oui. Catholique, pendant toute sa petite enfance et jusqu'au cours moyen deuxième année, quand il arrive dans une sixième où tout ça s'effondre et où il rentre, enfin tout ça disparaît, même dans les écoles catholiques sous contrat maintenant, il va être en contact avec des gens qui n'appartiennent pas à son,
c'est vrai,
à son milieu, à sa tradition et tout, ça doit être un choc terrible.
Oui, c'est ce qui fait, bien sûr, à côté de ça, on a donné quand même un certain nombre de structures aux enfants qui font que ça les rend plus solides pour affronter ce genre de situation, et en même temps, c'est ce qui fait que bien souvent encore des anciens qui nous ont quittés depuis très longtemps reviennent nous voir, parce que je crois qu'ils sentent un petit peu ce qu'ils ont pu trouver comme structure et comme fondement, et que ça les aide, je suppose, dans ce qu'ils vivent après.
Mais c'est vrai qu'il y a une nostalgie des anciennes, anciens de Don Bosco, et les filles en parlent avec beaucoup de nostalgie, parce que peut-être qu'elles ont trouvé une affection, une tendresse qu'on ne retrouvera pas par ailleurs.
Cette école existe depuis combien de temps?
Ce n'est pas moi qui l'ai fondée, 1980, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises.
Effectivement. Donc ça veut dire que les enfants que vous avez formés en première année sont en train de terminer leurs études secondaires. Alors, quelle classe avez-vous dans ces...
Alors, nous commençons donc à la maternelle, nous prenons les enfants à 3 ans et nous allons jusqu'à la 7e. Primaire plus donc maternelle.
Je suis bien content d'avoir quelqu'un qui pourra me répondre à cette question que je me pose depuis toujours. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon de mettre un enfant à l'école avant 6 ans?
Tout dépend où vous le mettez. C'est toujours le même problème. Il est certain qu'une préparation au cycle scolaire peut être est très très importante. Une préparation par la maternelle peut être très importante parce qu'il faut habituer l'enfant à une vie scolaire avant de le confronter vraiment à des programmes scolaires. Et puis, si les activités qui sont faites en maternelle sont réellement des activités préparatoires au primaire et au CP, telles qu'on essaie de le faire chez nous, là, oui, c'est utile. Maintenant, c'est vrai que quand vous mettez un enfant dans une maternelle où il y a 35 enfants et donc où c'est une garderie, il vaut mieux le garder chez vous, si vous avez la possibilité, vous, de le former, de former un petit peu son intelligence, de l'éveiller par vous-même, c'est certainement aussi efficace.
Quels sont les effectifs d'une classe moyenne?
Alors, en maternelle et CP...
Oui, parce que je ne vous ai pas laissé répondre, mais il y a maternelle supérieure...
Voilà, donc dans ces classes-là, jusqu'au CP, c'est 15, on s'est fixé pas plus de 15, et en principe, au-dessus, pas plus de 20. Donc, pour le moment, les effectifs tournent plutôt autour de 15 dans toutes les classes, mais enfin, on pourrait aller jusqu'à 20.
C'est un effectif qui permet de s'occuper plus attentivement des enfants.
C'est ça le but, hein, c'est de vraiment pouvoir connaître chaque enfant et s'en occuper de manière très très personnelle et particulière.
Les maîtresses c'est des maîtres et des maîtresses ou uniquement des maîtresses?
Actuellement uniquement des maîtresses. Il y a eu un maître à un moment, mais pour le moment, ce sont des maîtresses.
Alors, maintenant, la question des méthodes, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais on peut en dire un mot de plus, parce qu'on a parlé de la lecture, monsieur.
Voilà, disons d'une manière générale, méthode plutôt traditionnelle, fondée sur l'apprentissage du raisonnement, aussi bien point de vue du calcul, de l'importance des problèmes, du calcul tout à fait traditionnel, et puis en français, alors, importance de la grammaire, de l'analyse grammaticale, de l'analyse logique, qui mettent en place dans l'esprit des enfants toutes les structures essentielles à la compréhension de la langue après. Quand on fait l'analyse logique, on apprend ce que c'est qu'une cause, ce que c'est qu'une conséquence, mais il y a des choses qui se mettent en place de manière tout à fait systématique.
Et puis on en arrive à l'éternelle question, combien ça coûte?
Combien ça coûte? Alors le prix théorique est de 1300 francs par mois, sur 9 mois, quand on a un enfant à l'école, mais ces tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d'enfants que l'on a, et ces tarifs ne doivent jamais être un obstacle à une inscription à l'école Don Bosco. C'est vraiment une école de quartier. Nous avons beaucoup d'enfants du quartier qui acceptent...
Dans le quartier Montparnasse.
Quartier Montparnasse, oui, 14e.
Au 105 rue Raymond Losserand.
Voilà.
On va donner l'adresse tout de suite.
Donc nous avons beaucoup d'enfants du quartier, de parents, comme on le disait tout à l'heure, pas forcément de famille catholique, mais qui acceptent le projet et qui acceptent ce caractère catholique. Et je peux dire que chaque année, nous avons un ou deux baptêmes d'enfants qui sont à l'école et qui reçoivent peu à peu cette instruction.
Pardonnez-moi de revenir sur cette question. Vous dites 1300 francs, ça comprend
uniquement
la scolarité.
La
frais
cantine
se
rajoute.
De cantine,
voilà,
sont en plus.
27 francs par repas.
C'est-à-dire, en gros, il faut compter quand même quelque chose comme 1900 francs par mois pour un enfant qui reste en demi-pension.
Oui, ça.
Bien, Dominique Dage, je vous remercie. On pourra vous reposer toutes ces questions et bien d'autres le 12, je l'ai dit. Puisque, tiens, qu'est-ce que j'ai fait du papier? Non, il est là, voilà. le samedi 12 à partir de 14h. Donc, opération porte ouverte à l'école catholique hors contrat Don Bosco. C'est 105 rue Raymond Losserand, dans le 14e à Paris, métro Pernetti. Téléphone 45 41 18 78. Voilà, nous avons terminé cette première partie d'émission. Vous savez que, comme tous les 15 jours, la deuxième partie sera assurée par mon excellent camarade Daniel Amich, le fouilleur roi et sa bande. Et je crois que ce soir, sa bande est constituée de personnalités particulièrement choisies. Et donc, je vais lui laisser la parole, mais pas tout de suite. Je lui prendrai encore 3 minutes en début de deuxième partie pour faire mes petites annonces.
Merci.
Merci, Jacques. Merci, merci madame.
Avant les troupes bolcheviques, les
rallies. Bonsoir. Avant de céder la place à Daniel Amich, et en plus, quand je vois la qualité de ses invités, j'ai honte de rester dans une aussi illustre compagnie. Je ne la mérite vraiment pas. Alors, les petites annonces que je n'aurai pas le droit de dire à la fin de l'émission. Jeudi 10 mars, c'est-à-dire demain à 19h, à l'église Saint-Odile, la messe annuelle en souvenir du colonel Bastien Thierry, et dimanche 13 mars à 15h, au cimetière de Bourg-la-Reine, la réunion traditionnelle avec dépôt de gerbes et prières sur la tombe de Jean-Bastien Thierry. Je vous rappelle qu'à 10h30 demain matin, seront célébrées les funérailles d'André Dufraisse à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Vente de charité de l'abbé Coache à Saint-Nicolas-du-Chardonnay aussi, le samedi 12 et dimanche 13 mars, dans la salle des catéchismes. Le samedi 12 mars, à 14h, à bord du Zouave, embarcadère des bateaux-mouches, pont de l'Alma, rive droite, port de la conférence, Alain Sanders et Bernard Anthony recevront le colonel Denard et le commandant Guillaume, qui raconteront leurs aventures en Afrique et qui dédicaceront leur livre. Pour tout renseignement, 40 51 74 07, c'est le numéro de téléphone du centre Charlier. L'équipe du Centre de Culture et d'Histoire de la Commanderie des Templiers de Coulommiers a organisé une exposition photographique de chemin de croix par Alexandre Grand-Rémy. L'inauguration aura lieu le samedi 26 mars 94 à 16h. Ça se trouve à Coulommiers, en direction de l'hôpital. Vous trouverez, je pense, assez facilement le Centre de Culture et d'Histoire. Alors, une chose très amusante qu'il faut voir, c'est l'affaire de la rue de l'Oursine. C'est une comédie en un acte et 8 tableaux. Oui, M. Pinault a l'air de connaître, Eugène Labiche. Et ça sera donné du 8 mars au 16 avril 1994 à l'espace GEMMAP, 116 quai de GEMMAP, 75 010 Paris, tout à côté du métro Bonsergent ou de la place du gangster Fabien. C'est le mardi, du mardi au samedi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un lapsus, non?
Ah bon,
du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h et relâche le lundi. Réservation 4803 1109. L'affaire de la rue de l'Oursine. Alors, c'est une espèce de comédie musicale. Si vous avez envie de vous amuser, il faut vraiment aller voir ça. Bon, ça, tu en parles toi-même. Très bien. Les origines intellectuelles de la terreur et le génocide vendéen, c'est une conférence de Jean de Vigry qui sera donnée mardi prochain, 15 mars à 20h30, à la salle des fêtes de Marc en Bareuil. Je vous rappelle que le vendredi suivant, le 18 mars, à 18h à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet, une conférence débat aura lieu Métier et corps avant et après 91 par Paul et Pierrette Giraud de Coursac, historien. C'est à l'occasion de la fête de Saint-Joseph.
Artisan.
À 20h, messe de Saint-Pie-V, célébrée par Monsieur l'abbé de Linares, que je salue s'il nous écoute, car ça fait fort longtemps que je ne l'ai point vu et j'en suis bien marri. Et à 21h, buffet, avec la participation de l'actualité rurale, l'association médicale Saint-Comé-d'Amiens, l'action familiale et scolaire, le cartel corporatiste, le corporatisme français, le paysan biologiste, fragment, la lettre de la recherche créditiste, sauvegarde et promotion des métiers, enfin bref, que de l'extrême gauche ultramoderniste et progressiste. Patrice et Roger Martineau donnent un concert les 17, 18, 19 mars au métro Sentier, 17 rue Léopold Bellan, salle Saint-James. Et puis la suite, c'est pour le mois d'avril, on en reparlera. Je laisse la place à mon bon camarade Daniel et à ses invités illustres.
Je vous suis fort obligé.
Thank you.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous font l'amitié de rester avec nous pour cette deuxième partie, jusque presque 9h du soir. On a un petit bout de temps à passer ensemble, une bonne heure et un bon quart d'heure. Il y a de quoi faire ce soir. Bonsoir Pierre-Emmanuel.
Bonsoir Daniel.
Vous allez bien? Vous avez passé une bonne quinzaine?
Très bien, oui.
Bon, ben, heureux de vous revoir fidèle au poste et prêt à m'assister en cas de défaillance, ce qui est très possible à mon âge. Place aux jeunes, hein. Si jamais m'arrive quelque chose, ce sera à vous de prendre la suite. Et je salue alors ce soir, nous avons un plateau. Alors je pense qu'une auditrice va être très contente parce qu'elle va encore dire que ce soir, nous avons une émission de prestige.
Prestige.
Vous vous souvenez, t'as 15
ah
jours,
oui,
non?
Ça n'était pas une exception il y a 15 jours, c'est toutes les deux semaines.
J'avais pris comme ça. Alors ce soir, vraiment, c'est prestigieux parce que nous avons un plateau tout à fait exceptionnel et j'espère que nos auditeurs vont prendre plaisir à écouter toutes ces personnalités puisque nous avons alors dans l'ordre, c'est une espèce d'inventaire à la Prévert, nous avons un chercheur au CNRS qui a gagné et qui a trouvé quelque chose. Lui, il cherche, mais il trouve, à part mon amitié qui est indéfectible, il a trouvé beaucoup de choses intéressantes. Nous avons un voyagiste. Un voyagiste, c'est un monsieur qui s'occupe de voyage. Vous voyez? Vous voyez pas, c'est pas grave. Nous avons un archéologue. Nous avons un généalogiste, mais de formation, en fait, informatique, un informaticien généalogiste. Et puis, nous avons aussi un prof. Alors, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un pour relever encore davantage le plateau. Nous avons un professeur d'université.
Vous donnez les noms ou les auditeurs doivent deviner?
Ah bon, alors on va donner les noms. Donc je présente ce soir nos invités qui nous ont fait l'amitié de venir. Donc Jacques Népot, qui est chercheur au CNRS, qui est accompagné ce soir un peu de manière surprenante, mais c'est intéressant, par Jean-Christian Pinault, qui est voyagiste, c'est notre voyagiste de ce soir. Et ils vont nous parler de la réinstauration de la monarchie au Cambodge. Et puis je salue bien sûr donc la présence, mais tellement fréquente et tellement amicale, de Jean Barbet, qui est professeur à l'université du Maine, professeur d'histoire du droit, c'est ça, et qui va venir nous parler d'un colloque tout à fait, je crois, international et extraordinaire sur représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen-Âge. Alors c'est quand même un thème tout à fait époustouflant. Puis nous avons le plaisir de retrouver ce soir un archéologue qui est déjà venu nous voir il y a quelques mois, c'est Luis Valencia. Nous étions convenus de le revoir pour faire un peu le point de l'ensemble des travaux de fouilles sur Paris qui ont permis de mettre à jour beaucoup de vestiges mérovingiens. Mais là, il y a eu des découvertes absolument fulgurantes dont il va nous parler tout à l'heure, dont la presse a déjà parlé. Mais là, ce soir, vous aurez donc notre invité en direct. Et puis, également, puisque nous parlons de mérovingiens, nous allons parler de Christian Settipani. Non point qu'il soit mérovingien, le pauvre, parce qu'il est tout jeune. Je le pensais que c'était un vieux monsieur tout chenu. Après le travail magnifique qu'il a fait, mais c'est un tout jeune homme qui travaille avec Patrick Van Kerbouck dans cette collection stupéfiante de la nouvelle histoire généalogique de l'Auguste Maison de France. Et là, il y a le tome, le troisième volume qui est paru sur la préhistoire des Capétiens. Alors tout ça nous promet des informations et une soirée très agréable si vous acceptez, chers amis auditeurs, de la passer en notre compagnie. Alors pour nous être un peu dans l'ambiance de cette chronique des fous du roi, bon, on va écouter un peu de musique, disons, royale. Nous avons, comme on dit en termes techniques, chanté en douceur, parce que ça dure longtemps. C'est une musique très agréable, très grand siècle, mais parfois un peu répétitive. Ça peut lasser les auditeurs, surtout s'ils sont à table. Alors, je salue donc Jacques Népot, chercheur au CNRS, et Jean-Christian Pinault, voyagiste. Ils sont venus l'un et l'autre séparément, mais concomitamment, puisqu'ils sont ensemble au micro, évidemment, pour parler, chacun à sa manière, d'un sujet dont la presse a un peu parlé, mais pas beaucoup, qui est la réinstauration de la monarchie au Cambodge. Bah oui, il faut se figurer qu'après la tragédie que ce pays a vécu pendant tant d'années, la monarchie a été réinstaurée. Donc, il est normal que dans la chronique des fous du roi, on se préoccupe de ce genre d'événement, parce qu'il n'est pas C'est pas aussi fréquent que les impôts qui tombent tous les ans. C'est pas tous les jours qu'on a une restauration de la monarchie. Même si elle est un peu éloignée de nous, il se trouve que les liens entre la France et le Cambodge sont très anciens et que la sympathie qu'on peut avoir pour ce peuple tout à fait amicale et pacifique est une sympathie aussi ancestrale. Et je pensais que ce serait intéressant de faire parler deux spécialistes, un chercheur au CNRS et puis un voyagiste qui a souvent voyagé dans ces pays exotiques et lointains, qui connaît bien le Cambodge pour y être allé encore récemment et qui connaît bien aussi les choses de restauration royale, n'ayant pas bordé, mon n'est-ce pas mon cher Jean-Christian, que nous aurions intérêt à l'avoir avec nous pour qu'il nous donne non pas le point de vue de Sirius, mais le regard de l'amateur et en même temps de la personne partie prenante, d'une certaine manière, de tous ces phénomènes qui se passent, pas seulement en Asie, mais aussi en Europe, puisqu'on parle aussi beaucoup de restauration de monarchie en Europe, notamment dans les anciens pays du bloc communiste. Jacques Népot, merci donc de vous être joint à nous ce soir pour aborder cette question du Cambodge, mais peut-être pourriez-vous faire au débeauté, et pour commencer votre intervention, un petit point sur historique sur la monarchie du Cambodge. Est-ce que c'est une monarchie récente? Est-ce qu'elle remonte à loin? Voilà ce que nous aimerions déjà savoir dans un premier temps.
Ce qu'il faut savoir quand on parle du problème cambodgien, c'est que la couronne cambodgienne est la plus ancienne institution survivante de toute l'Asie du Sud-Est. Pour donner un point de comparaison pour des Occidentaux, on peut dire que les Cambodgiens ont à peu près la même profondeur historique qu'en a la couronne de France. Et on peut dire que la dynastie qui est en place au Cambodge est quelque chose qui s'apparente ou aux Carolingiens ou aux Capétiens, puisque les Capétiens sont d'une certaine manière descendants des Carolingiens. Autrement dit, cette réinstauration de la couronne cambodgienne est en fait une stabilisation de toute la zone autour de ses valeurs culturelles ancestrales.
Donc une très antique lignée royale.
C'est avec la couronne japonaise, c'est probablement la plus ancienne couronne de tout l'Extrême-Orient.
Voilà une chose qui est peut-être méconnue de nos auditeurs et qui remet un peu cette histoire et cette réinstauration récente dans la longue perspective de cette dynastie. Alors, dans quelles conditions exactes s'est faite cette réinstauration? Je ne sais pas s'il faut parler de restauration, d'instauration, de réinstauration. Peut-être qu'on joue un peu sur les mots, mais quel est le terme qui convient le mieux?
En réalité, je vais vous dire par une boutade qu'il ne s'est rien passé, puisque le nouveau régime a déclaré inconstitutionnel ce qui s'était passé contre le roi Sihanouk en 1970. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1970, le Cambodge vivait en paix, avec à sa porte la guerre du Vietnam, et que les Américains n'ont rien trouvé de plus malin pour élargir leur front et, pensaient-ils, couper les bases arrières des Vietcong, que de mettre en place un régime à leur solde au Cambodge et de subvertir la société en renversant la monarchie.
C'est le coup d'état de Lon Nol.
Voilà, le coup d'état du maréchal Lon Nol, qui était un tout à fait curieux personnage dont on pourrait éventuellement reparler à l'occasion. Et à la suite de ce coup d'état, bien évidemment, le Cambodge, la République Khmer, n'a cessé de s'enfoncer dans la catastrophe, et de catastrophe en catastrophe, elle est arrivée jusqu'au régime Khmer Rouge, qui a conduit aux horreurs que chacun sait. La situation ne pouvant pas durer, à la fois les puissances internationales, les puissances de la région, et puis les Cambodgiens eux-mêmes ont essayé de trouver une solution. Un régime a été réimplanté au Cambodge sous direction, il faut le dire, sous direction vietnamienne, qui n'a pas, en 1979, il n'a pas non plus été capable de gérer la situation. Il faut dire, il était difficile de gérer un pays qui était revenu à l'état zéro. Ce qui fait que, par toute une série de démarches, de politique internationale, etc., extrêmement longues, des consensus se sont trouvés pour faire un gouvernement de coalition présidé par le prince Sihanouk. Et devant l'impossibilité de trouver une autre formule, parce qu'il n'y a pas d'autre formule possible à trouver au Cambodge, il a été décidé de, entre guillemets, restaurer la monarchie, c'est-à-dire de déclarer nul et non avenu le coup d'État de 1970.
Toute la parenthèse, en quelque sorte.
Voilà.
Donc Sihanouk est un peu comme Louis XVIII, quand on est venu lui dire « Sire, vous êtes nouveau roi de France », mais ne l'ai-je pas toujours été. Bon, en fin de compte, on peut dire que la parenthèse est aujourd'hui refermée. Mais c'est curieux, par exemple, la terminologie, vous employez le mot, et on voit souvent dans les journaux, le mot de prince, le prince Sihanouk. En fait, il est roi.
Oui, la situation du point de vue de la couronne est difficile à comprendre pour des Occidentaux, parce qu'en réalité, la couronne, je pense que la meilleure comparaison que je pourrais donner, c'est pour des catholiques, de même que nous pensons qu'il y a un dieu en trois personnes, eh bien, il y a une couronne en trois personnes au Cambodge. Il y a ce que nous appelons le roi, est simplement le personnage central d'une trinité royale. Et quand Sihanouk avait en 1955, Sihanouk est roi du Cambodge depuis 1943. En 1955, pour des raisons pratiques, il a dû descendre dans l'arène politique et il a renoncé à son titre de roi, transmettant la couronne à son père, et lui-même a assumé la troisième fonction royale, ce qui fait que sans être roi, il était toujours roi. Et c'est pour ça que on peut dire que redevenant roi du Cambodge, à la fois il a changé de statut puisqu'il était, pour reprendre la terminologie cambodgienne, Samdek Upayuvariet, il est devenu simplement le roi, le Raja du Cambodge.
Et quelqu'un écoute avec beaucoup d'attention ce que vous êtes en train de dire, c'est Jean Barbet, qui, comme vous savez, a beaucoup travaillé sur la fonction royale française et qui vient de publier un magnifique « Être roi » chez Fayard. Il s'en est déjà longuement expliqué à ce micro. Mais c'est intéressant, cette conception de la monarchie trinitaire est une chose qui n'existe pas véritablement dans la tradition française. On aura l'occasion peut-être tout à l'heure, Jean, de parler de cette question. Donc, monsieur le professeur, excusez-moi, Jean.
Je peux faire une petite parenthèse en tant que... En ayant travaillé sur le sacre des rois de France, je crois que sous l'Ancien Régime, la couronne était en réalité détenue par le roi, la reine et le prince héritier. Et à une certaine époque, en tout cas, c'était manifesté au moment de la sortie du rituel de couronnement. Enfin, on peut refermer la parenthèse.
Bon, nous allons parler du Cambodge d'abord, n'est-ce pas? Et nous verrons tout à l'heure avec Jean Barbet ce qu'il pense de ça. Mais c'est une chose intéressante, je veux dire, c'est une idée tout à fait nouvelle. Alors... avant d'aller un peu plus loin et de vous interroger davantage sur l'ensemble des travaux que vous avez accomplis en matière de connaissance de la dynastie et de la royauté cambodgienne, moi je voudrais interroger Christian Pinault maintenant, et parce que vous êtes allé récemment au Cambodge.
Tout à fait. Oui, au mois d'octobre et novembre, au moment de la mise en place de la constitution adoptée par cette assemblée constituante qui avait été élue sous la protection des Nations Unies, avec une force absolument spectaculaire déployée par l'Organisation des Nations Unies, où le travail qui a été fait est gigantesque. On a recensé la population du Cambodge, qui n'avait pas été fait depuis l'avant-génocide, depuis l'époque de l'imposition de Sihanouk et du coup de force de 70. On a, à partir de là, défini le corps électoral. Et ensuite de quoi, il y a eu une élection. Chaque bureau de vote a été tenu en armes par les Nations Unies, c'est-à-dire aucune des factions et des partis en présence n'avait accès au bureau de vote. C'était les forces de l'ONU qui le tenaient, et ni au dépouillement. C'est l'ONU qui a fait le dépouillement des suffrages. Et par la force de dissuasion que les armes que détenaient les soldats de l'ONU pouvaient... avoir sur ceux qui auraient pu être tentés d'empêcher le processus d'aboutir. C'est une histoire aussi tout à fait invraisemblable quand on y pense, que cette élection ait pu avoir lieu après tout ce qui s'est passé au Cambodge et qu'on vient de rappeler.
Logiquement, ce pays devait disparaître de la carte. La programmation de sa disparition était prévue, puisque entre cette espèce de folie meurtrière des Khmers Rouges, et quand je dis folie encore, je tente de les disculper, parce que c'était vraiment une folie très, un peu à la façon de la terreur, un peu, c'est les tueurs locaux, en quelque sorte, et les appétits des voisins les plus immédiats du Cambodge, la programmation de la disparition de ce pays était faite.
Alors justement, je crois que c'est tout à fait vrai, ce pays était en voie de disparition pure et simple, mais c'était pas quelque chose de nouveau dans l'histoire du Cambodge. À plusieurs reprises, dans sa longue histoire multiséculaire, le Cambodge a été menacé par ses voisins immédiats, que sont le Vietnam Il y avait autrefois le royaume Champa avant le Vietnam, et d'autre côté la Thaïlande. Et il y a eu d'autres ennemis aussi, Birman, etc. Malais même dans l'histoire, longue histoire du Cambodge. Et en fait, ce qui est très important pour illustrer ce qu'a dit Jacques Népot et pour essayer d'apporter un témoignage vivant ici de ce que j'ai pu ressentir au travers de l'anniversaire du roi, la fête de l'indépendance, c'est que c'est l'identification de cette nation, de ce pays, avec la dynastie, qui fait que le Cambodge a survécu. Et je pense que c'est à plusieurs reprises dans l'histoire de ce pays, et c'est dans l'épisode le plus récent, les 25 dernières années, à nouveau clairement affirmé, sans la famille royale, sans l'incarnation, en quelque sorte, on parlait de Trinité, parlons d'incarnation maintenant, du pays à travers la dynastie, le Cambodge aurait probablement disparu comme nation. On sait que c'est un petit pays aujourd'hui. L'Empire Khmer, Jacques Népot le rappelait tout à l'heure, a été, à un moment donné, entre la Chine et l'Inde, il n'y avait que l'Empire Khmer. C'est sûr que ce pays a été rogné progressivement par ses voisins. Il y avait donc déjà un problème d'existence, d'identité. Et la monarchie Khmer, sans la monarchie plutôt, il n'y a pas de Cambodge. Et je pense que même, je vais vous dire une chose qui peut paraître étonnante, même les Khmers rouges aujourd'hui, dans la phase actuelle, reconnaissent parfaitement le retour du roi. Et pour eux, d'ailleurs, il n'a jamais disparu. Ils sont prêts à accepter de venir autour du roi parler. C'est un phénomène tout à fait étonnant. Alors, ils ne reconnaissent pas vraiment le nouveau gouvernement ni la constitution, mais ils reconnaissent la monarchie.
Alors, moi j'ai des questions à poser à Jacques Népot, parce que là, bon, les auditeurs téléphonent.
Beaucoup de réactions.
De réactions, effectivement, parce que dès qu'on parle, parce que là on parle d'une monarchie qui s'est développée, qui a continué à exister dans un contexte politique d'affrontement idéologique aussi, parce que il est évident que cette région du monde a été traversée des combats idéologiques dont nous avons souffert, et dont nous continuons d'ailleurs à souffrir pour une grande partie. Donc les auditeurs téléphonent et envoient beaucoup de messages. Je rappelle qu'ils peuvent toujours appeler au 46 51 00 80. Nous sommes là, bien sûr, pour écouter leurs messages, essayer d'en passer le maximum. Donc, trois auditeurs se sont signalés. Je vais lire les trois réactions qu'ils ont eues. Et je demanderai à Jacques Népot d'avoir la gentillesse de répondre s'il le peut, s'il le souhaite, surtout. Premier auditeur, nous disait le roi du Cambodge est un communiste notoire. Deuxièmement, le roi du Cambodge a-t-il véritablement été l'ami des Khmers rouges? Troisièmement, dans les années 70, la neutralité du Cambodge était un leurre, puisque le Viet Minh passait par le Cambodge pour contourner les lignes américaines. Je suppose que c'est ça, c'est parce que je crois que partie de la piste Ho Chi Minh passait effectivement par le Cambodge. Alors, trois questions.
Oh, c'est extrêmement simple de répondre. Ces questions ne reflète pas la réalité de la société cambodgienne et du problème. En fait, il faut replacer ça dans un contexte beaucoup plus général. Tous nos discours en termes de communisme, de pas communisme, etc., ça ne recoupe pas les réalités locales. C'est un plaquage extérieur, simplement le moment venu pour se donner une audience internationale. Certaines des personnes qui faisaient la révolution se sont déclarées communistes, mais je veux dire, ça a à peu près autant d'impact que lorsque certains de nos hommes politiques se déclarent écologistes de nos jours. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que dans ces sociétés-là, de toute façon, traditionnellement, c'est un petit nombre de familles qui gèrent le pouvoir, et d'ailleurs que ce soit en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge ou ailleurs, ce sont les gens que l'on voit apparaître sous l'étiquette de communistes sont en réalité des gens qui sont issus de très anciennes familles. Je vais simplement vous prendre un exemple, une bonne partie du personnel politique du Vietnam, entre guillemets communiste à l'heure actuelle, sont des gens qui revendiquent leur filiation. Par exemple, pour certains d'entre eux, non même pas en relation avec la dynastie des Nguyen actuelle, mais en relation avec la dynastie d'avant, qui est la dynastie des Lai. Alors, ce discours sur le communisme n'a pas grand sens. Simplement, ce qui s'est passé concernant Sihanouk et son rapport avec les Viet Cong, avec les communistes vietnamiens, c'était un simple rapport de force. Dire que le Cambodge, la neutralité du Cambodge était une fiction, oui et non. d'une certaine façon certainement, ne serait-ce que parce que une bonne partie du Cambodge était couvert de jungle et que personne, pas même les Américains d'ailleurs, n'ont réussi à contrôler cette jungle. Conclusion, les Khmers ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et ils ont essayé de maintenir des consensus avec ceux qui, évidemment, allaient être les vainqueurs et allaient coller une, pardonnez-moi de l'expression, allait coller une dérouillée aux Américains. Alors vous comprenez que si les Américains avaient été incapables de gérer la question, ô combien le Cambodge qui n'avait pas d'armée.
Alors bon, merci pour ces précisions. Je pense que ça va sans doute générer une nouvelle vague d'appels téléphoniques.
Je voudrais ajouter une chose, c'est que les Américains sont, il faut le dire ici, très largement responsables dans leur politique ou dans leur erreur politique, dans leur erreur de choix, dans leur méconnaissance, très largement responsables d'avoir poussé un certain nombre de personnes à se déclarer avec telle ou telle étiquette plus ou moins extrémiste, et, y compris communiste, avec des surenchères dans le genre, mais ils sont très largement responsables. Et le Cambodge d'avant 1970 était quand même un État, un royaume avec une constitution qui fonctionnait et avec une société qui était en paix avec elle-même. Il faut quand même bien comprendre que ce sont les Américains qui ont introduit la perturbation au départ et qui sont très largement responsables de ce qui s'est passé après.
On nous demande un petit point d'une petite précision un peu macabre, je le regrette infiniment, mais enfin c'est une question qui est posée. Un auditeur demande combien de morts ont fait les Khmer Rouges. C'est très compliqué à savoir.
Je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Ce qu'on appelle les massacres des Khmer Rouges, qui sont effectivement abominables, ont été très largement exagérés. Il y a peut-être eu 600, 700 000 morts. Mais le problème n'est pas tellement là. Ils n'ont pas réellement... Bon, ils ont tué du monde, c'est certain. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas tué du monde. Mais surtout, le pays a sombré dans une féodalisation complète, une désorganisation telle que les gens sont tout simplement morts de faim.
Voilà,
Alors, imputer ça aux Khmer Rouges, alors c'est vrai que c'était pas des anges. Mais en faire un... développer toute cette espèce de discours sur le génocide avec des chiffres ahurissants, c'est une façon de masquer les véritables problèmes.
Et encore une autre question d'une auditrice, question un peu ironico-perfide, disant « Pensez-vous que le correspondant à Phnom Penh du Canard Enchaîné soit un monarque sérieux ? Est-ce qu'il est avéré que le prince Sihanouk était un des correspondants, des honorables correspondants de cet hebdomadaire du mercredi ?»
Bien sûr, les gens n'ont absolument rien compris à la... Les Américains, comme beaucoup de gens, n'ont absolument rien compris à la politique de Sihanouk. Sihanouk s'est retrouvé en 45 avec un royaume qui sortait d'un état de guerre, parce qu'il y a quand même eu la guerre avec les Japonais, et qui présentait ce handicap majeur d'avoir été intégré à l'intérieur de la Fédération Indochinoise, c'est-à-dire que tous les organes d'État, en fait, étaient entre les mains des Vietnamiens. Toute l'administration centrale de l'Indochine était entre les mains des Vietnamiens. Donc, le roi Sihanouk s'est retrouvé en 45 non seulement avec un État presque à créer de toutes pièces, mais avec des troubles qui étaient engendrés par toutes les factions périphériques et la nécessité de jongler dans un contexte international très trouble. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tiré un petit peu de toutes les ficelles avec un art de la diplomatie extraordinaire. C'est un Mazarin à la puissance 10, Sihanouk. C'est exactement comme si on voulait limiter la politique de restauration faite par Mazarin à quelques-uns de ses aspects anecdotiques dans le théâtre ou autre chose. Simplement, c'est quelqu'un qui a utilisé le peu de ficelles qu'il avait à sa disposition. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il soit resté en place.
C'est qu'il soit toujours là aujourd'hui.
Moi, j'ai une vive admiration pour le roi Sihanouk.
Ça montre en tout cas qu'il avait un consensus autour de lui, parmi les Khmers, qui lui a permis ce retour.
Le consensus est tellement vrai aujourd'hui. Et ça ne pouvait d'ailleurs que... C'est son excellence Son San, qui était réputé républicain tout à fait à tort par des observateurs qui n'y comprennent, comme le dit Jacques Despotes, rien du tout à la politique cambodgienne. C'est lui qui a suggéré, d'ailleurs, qu'on mette en tête la constitution de la royauté, parce que pour lui, elle n'avait jamais cessé. Donc, il y a un consensus autour de l'institution et autour de la personne. Parce qu'effectivement, si Anouk, quand on regarde finalement tous les grands acteurs de ce 19e siècle, de ce 20e siècle finissant, il est clair que si Anouk, celui qui aura survécu au travers de tous ces horreurs et ces vicissitudes, c'est bien Norodom Sihanouk, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est une leçon dont les Français feraient bien de...
La porte était très, le chemin était très étroit, et qui aurait pu, il fallait être un personnage drôlement fort politiquement et psychologiquement pour arriver à survivre au milieu de tout ça. Mais je pense qu'il aurait, toute son intelligence personnelle n'aurait pas suffi, bien qu'elle soit grande, tout à fait, s'il avait été, il n'avait pas été l'incarnation de quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est ça qui lui a permis en réalité de passer, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Moi, j'ai vu des gamins qui n'ont pas connu 1970, n'est-ce pas, et même de beaucoup plus jeunes que ça, qui étaient mais en lévitation et devant le phénomène, le retour du roi. Le roi était là, c'était absolument quelque chose de palpable. Il y avait un charme, le charme de la monarchie était vraiment palpable là.
Jacques Népot, encore une petite question, parce que si des auditeurs souhaiteraient se documenter davantage, je crois que vous avez commis en quelque sorte un livre qui s'appelle L'état présent de la maison royale Khmer ou quelque chose de...
En 1988, j'ai pensé qu'il était de mon devoir, étant donné que j'en avais la compétence professionnelle, d'aider dans la mesure du possible à la restauration, et que la meilleure chose à faire était de redéfinir l'état de la famille, puisque toutes les archives avaient été détruites par les Khmers Rouges et que je me trouvais disposé d'une copie de l'état civil du palais qui m'avait été remis par mon patron Bernard-Philippe Grolier. Alors j'ai fait, avec la collaboration d'un certain nombre de princes cambodgiens, j'ai refait un état présent de la maison royale du Cambodge.
Alors cet ouvrage, on peut se le procurer, parce que c'est quand même quelque chose tout à fait exceptionnel.
Cet ouvrage est de diffusion privée, puisqu'il a été diffusé parmi les membres de la famille et par un certain nombre de responsables politiques. Cela dit, si ça intéresse réellement des gens...
Si vraiment il y a des aficionados, alors qu'est-ce qu'il faut faire
m'écrire.
Donc, à votre adresse...
Je voudrais faire plaisir à Jacques Népot, il n'est pas si confidentiel que ça. J'en ai un exemplaire, et les Cambodgiens, non seulement les proches du palais, mais les Cambodgiens bien informés connaissent cet ouvrage. Moi, je l'ai vu de nombreuses fois, et ils y font référence. Donc,
alors, on va donner l'adresse de Jacques Népot, c'est à Courbevoie, n'est-ce pas ?
Voilà, mon adresse.
10, alors 10, 2 x 5, avenue du Bonnet, du Bonnet, D-U-B-O, de sa notée, c'est ça, 92 400 Courbevoie. Alors si vraiment il y a des amateurs, mais je crois que c'est intéressant, parce que moi j'ai jeté un petit coup d'œil l'autre jour, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, c'est un vrai travail d'historien, mais d'historien, pas comme fait Christian Sedipani, qui essaie de reconstituer les choses du passé, mais là c'est très actuel, puisque ces princes
existent toujours. C'est un état présent. Oui,
c'est un état présent. Eh ben merci beaucoup Christian Pinault.
Non, mais on pourrait parler très très longtemps.
C'est vrai, mais
sur
il y a d'autres
Cambodge.
Invités. Une réunion qui m'est déjà reprochée.
Une dernière chose que je veux dire, c'est que il faudra, je pense, reparler de ce sujet, parce que le retour d'une monarchie, c'est quelque chose qui nous tient profondément à cœur.
Beaucoup d'entre
que
nous.
Ça a eu lieu, alors qu'on n'en a quasiment pas parlé. Effectivement, c'est quelque chose qui nous fait infiniment plaisir, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer de s'en inspirer, d'en tirer les leçons. Il faut la faire connaître, déjà. Donc, de grâce, parlons-en encore beaucoup sur cette radio, sur d'autres, et partout où on peut en parler.
Merci de cet hommage indirect que vous m'adressez, cher Christian Pinault. Merci Christian Pinault, merci cher Jacques Népot. Et puis pour vous récompenser un peu et puis faire en sorte que nous puissions tranquillement aborder la transition vers l'autre partie, nous allons passer un peu de musique, toujours royale tant qu'on y est.
Thank you.
Eh bien, nous revoilà. Donc, après cette... cette intéressante discussion sur la situation au Cambodge qui, moi, personnellement, m'a appris beaucoup de choses.
J'avais encore plein de questions à poser. Mais
beaucoup de questions. Malheureusement, nos invités sont partis parce qu'ils avaient d'autres obligations ce soir. Mais si les auditeurs insistent beaucoup, nous les ferons revenir et peut-être que nous pourrons refaire une émission peut-être un peu plus importante sur cette question, la monarchie au Cambodge, qui semble passionner beaucoup nos auditeurs parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de messages, ce qui montre qu'il y a à la fois beaucoup d'idées fausses qu'il faut peut-être arriver à combattre, et puis surtout un message d'espérance aussi à faire passer, puisque ce qui se passe au Cambodge nous intéresse aussi beaucoup en France, n'est-ce pas, Pierre-Emmanuel? Mais là, vous n'allez pas nous parler du Cambodge, maintenant vous allez nous parler de tas de choses qui se passent un peu partout. Alors, ce sont vos brèves.
On va encore aller très vite.
Allez-y.
On est brève. Hein. Alors, je commence par une messe qui sera célébrée mercredi, c'est 16 mars, c'est bien mercredi prochain, à 18h30 à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Une messe pour tous les prêtres victimes de la Révolution française, française, je peux même rajouter. Alors,
vous avez raison, parce que là, vous prenez exemple en disant dite française sur un grand pape, sur Pie XII.
N'est-ce pas ? Alors, à propos de pape, justement, je n'aurai pas le temps de le lire en entier, mais il faut savoir que le pape Jean-Paul II a adressé, à l'occasion d'une messe qui a été célébrée pour le deuxième centenaire des victimes et martyrs de la guerre de Vendée, à l'occasion d'une messe qui a été dite dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, le 13 février dernier, par le cardinal Paul Poupart, et Jean-Paul II a adressé un message. Donc on ne le sait pas toujours, mais et ce message, je vous lis le début uniquement.
Oui.
Alors, à l'occasion du bicentenaire des martyrs de la Révolution française dans la Vendée militaire, parmi lesquels figurent les 99 angevins béatifiés il y a 10 ans, le Saint-Père s'unit à la prière des communautés diocésaines de Luçon, Angers, Poitiers, Nantes, La Rochelle, Laval et Le Mans. La fin du message est: en cette année de la famille, le Saint-Père confie les foyers chrétiens à Notre-Dame, vénéré sous de riches vocables dans les nombreux sanctuaires de la région et de grand cœur, il envoie à tous sa bénédiction apostolique.
Ben,
je signale aussi qu'il y a des messes qui ont été dites dans le sud-ouest, qui ont été dites dans la région de Nice, qui ont été dites un peu partout pour les prêtres et les membres du clergé victimes des guerres de Vendée.
Excellent.
Voilà, donc messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, 16 mars, le mercredi prochain, le 16 mars. Deuxièmement, je voudrais annoncer une conférence le 22 mars à 18h dans la mairie du 1er arrondissement de Paris. Monsieur Jean-Pierre Bablon, qui est membre de l'Institut, qui est conservateur de Versailles et du Trianon, qui est président de la société Henri IV et qui était notamment présent à Chartres il y a une dizaine de jours.
Ah, mais oui, vous étiez aussi à Chartres alors ?
Oui.
Bon, je ne savais pas.
Et donc, il donnera donc une conférence.
Qu'est-ce que vous faisiez à Chartres il y a 10 jours alors ? Qu'est-ce que vous faisiez exactement à Chartres il y a 10 jours ?
Ben, écoutez, il y a 10 jours, c'était justement le 4e centenaire du sacre d'Henri IV qui s'est déroulé à Chartres.
Bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais totalement oublié.
Mais tout à fait prestigieux. Il y avait des invités tout à fait prestigieux, ça s'est très bien passé d'ailleurs.
Il y avait le duc d'Anjou. Le comte de Paris n'est pas venu.
Et non.
Tant pire pour lui. Tant pire.
On va commencer à faire de mauvais esprits, n'est-ce pas ? Donc je donne le thème de la conférence, l'entrée d'Henri IV à Paris. Donc c'est tout à fait circonstance, monsieur Jean-Pierre Bablon, le 22 mars à 18h. Ensuite, une petite annonce à propos du spectacle de Marie-Antoinette et ses amis, qui continue toujours, qui est jusqu'à fin mars, la pièce de Franck Bertrand.
Ça continue, mais il faut se dépêcher, parce que je pense que là, on arrive dans les derniers jours.
Dernière représentation. C'est au Théâtre de Collection, 14 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris. Le numéro de téléphone pour les réservations, 43 54 88 73. C'est du mardi au vendredi, la séance à 21h. Le samedi, séance unique à 18h. Il n'y a pas de séance le dimanche et le lundi. Et je rappelle qu'il y a toujours une remise de 50% pour les auditeurs des Fous du Roi de Radio Courtoisie.
Alors, il ne faut pas se gêner.
Profiter. Voilà.
Mais allez-y, ce spectacle est vraiment très attachant.
Je voulais aussi rajouter quelque chose à propos de la venue d'Yves Marie-Adeline la semaine dernière, à propos de son livre La musique et le monde.
Il y a 15 jours, nous n'avons l'émission que quinzomadaire, pas hebdomadaire.
Donc La musique et le monde, édité par Pierre Tecky, livre de Yves Marie-Adeline, qui dédicacera ce livre au Salon du Livre qui se tient le 26 mars. Donc on a oublié de l'annoncer il y a deux semaines.
Le 26 mars, c'est la Porte de Versailles,
Versailles,
le grand salon du livre. Yves Marie-Adeline sera donc présent sur le stand de Tecky pour dédicacer son ouvrage. Je pense que le professeur Barbet sera aussi au salon du livre, non?
Non, nous, parce que vous serez... justement, j'ai mon colloque.
Précisément.
Vous allez venir. Transition.
Ah, la transition est trop tôt. C'est trop tôt, j'ai fait une transition.
Très bien, c'est parfait.
C'est trop tôt.
Je voulais parler du passionnant colloque international qui est organisé à l'université du Maine au Mans par le professeur Jean Barbet, mais je ne vais pas en parler tout seul.
Bah, c'est pas vous qui allez en parler, on va laisser Jean Barbet en parler. Alors, il y a ce colloque, donc colloque international, effectivement, parce qu'il y a présence, bien sûr, de nombreux spécialistes français, mais aussi anglais, allemands, américains, je crois.
Oui, il y a des Américains, des Anglais, un Suisse, un Allemand, deux Anglais, un Italien, etc. Et puis des Français, bien sûr.
Colloque international.
C'est un colloque international, mais un colloque international est un fait très courant. Ce qu'il faudrait peut-être davantage souligner ici, c'est que ce colloque est surtout a été voulu comme un colloque pluridisciplinaire, ce qui est beaucoup plus rare. En général, les colloques se passent en vase clos, entre spécialistes d'une même discipline, entre historiens du droit, juristes pour ainsi dire, ou historiens des lettres, etc. Dans ce colloque sont représentés des universitaires, des facultés de droit, des historiens du droit, des historiens des lettres, des historiens de la littérature et des spécialistes d'iconographie ou de symbolique. Donc voilà un colloque très vaste qui a reçu l'aval du CNRS et qui prend place. Évidemment, ce n'est pas un colloque unique, il y en a beaucoup. Si vous voyez simplement les subventions accordées par le CNRS chaque année à ceux qui ont demandé de telles subventions pour les colloques, nous frémirions de voir le nombre des colloques, au point que je crois que récemment un de mes collègues universitaires, Jacques Le Goff, s'était plaint dans la revue du CNRS du trop grand nombre de colloques qui, selon lui, arrivaient à freiner la production scientifique. Il est incontestable que des colloques de ce genre sont peut-être fréquents et que certains des intervenants ont parlé il y a 8 jours ou parleront quelques jours plus tard. Je crois que, par exemple, notre ami Jean-Marie Carbaz de l'Université de Paris 2 s'exprimera quelques jours plus tard au colloque sur Malesherbes.
Il va venir
c'est
à
un,
ce micro,
c'est un exemple.
Oui, il va venir,
certains
oui.
autres intervenants ici qui sont là, notre colloque du 25 et 26 mars, s'exprimeront à Oxford. C'est un colloque sur Jacques Le Goff, pour vous donner un exemple. Ce colloque, donc, c'est la première marque d'originalité, c'est peut-être ce caractère pluridisciplinaire, beaucoup plus qu'international. Et le deuxième aspect, peut-être, c'est, en raison un peu de ma spécialité, moi, portant sur la fin du Moyen-Âge, sur l'État royal à la fin du Moyen-Âge, il porte sur cette période des 2 derniers siècles de notre histoire qui ont pendant longtemps été plutôt négligées par l'histoire commune. Le Moyen-Âge, c'est le XIIIe siècle, c'est le XIIe siècle, c'est les grands siècles de l'expansion chrétienne. Les XIVe, XVe siècles, dans le siècle noir en général, guerre de 100 ans, grande peste, désorganisation économique, etc. Et au fin de la guerre de 100 ans, et au fond, ce XVe siècle ne fait qu'annoncer la Renaissance. Or, depuis une quinzaine d'années, les perspectives sur la fin du Moyen-Âge ont beaucoup changé. D'ailleurs, vous noterez au passage, Daniel, que il y a une remise actuellement en perspective de tout le Moyen-Âge, justement. Je ne veux pas ici minimiser les siècles qui feront suite, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle. J'ai une intense admiration pour le XVIe ou le XVIIe siècle, moindre pour le XVIIIe, à beaucoup de points de vue. Mais enfin, ce Moyen-Âge, période noire, période de transition entre une belle antiquité et la belle Renaissance, est une époque qui a été longtemps trop méconnue. Rappelons-nous le Moyen-Âge, classe de 5e de notre vieux Malais Isaac. Il fallait tenir le programme, mais c'était un programme qui insistait beaucoup plus sur les aspects sombres de ce Moyen-Âge.
Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ce terme de Moyen-Âge? Parce que ça veut rien dire, en fin de compte. C'est mettre sous une même appellation des siècles qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres.
Non, mais cette appellation est trop ancrée maintenant pour qu'on puisse revenir sur elle. Il s'agit de la faire apprécier à sa juste valeur. Et c'est ce à quoi s'emploient pas mal d'universitaires, ce à quoi s'emploient ces colloques ou des livres qui sont parus très récemment, aussi bien en matière philosophique qu'en matière historique, etc. Donc ce Moyen-Âge, cette fin du Moyen-Âge, notamment le 14e et 15e siècle, est un Moyen-Âge extrêmement riche parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de solution de continuité entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. La Renaissance, elle se sent institutionnellement dès la fin du 14e siècle. Quand vous ouvrez cet ouvrage sur le fameux songe du verger, cet ouvrage dont on ne sait pas très bien l'auteur en définitive, qui a été rédigé sur la commande même de Charles V et qui fait le point sur la nature du pouvoir royal et sur ses relations avec le pouvoir spirituel, vous y voyez la pointe. Oh, bien sûr, il n'y a pas encore le vocabulaire adéquat. Mais les idées sont en germe. Il y a déjà les idées modernes qui écloront magnifiquement au XVIe siècle, de la souveraineté, des grands privilèges régaliens du roi, de la mise à sa place ou de la remise à sa place de l'église gallica dans le royaume. Tout est déjà là. Je ne dis pas seulement en germe, c'est déjà plus qu'en germe. C'est dit en latin de bas Moyen-Âge, je ne veux pas dire de cuisine, il n'y a pas de latin de cuisine, sauf dans les livres de recettes d'Apicius. Mais ce bas Moyen-Âge mérite largement autre chose que ce qu'on en dit habituellement. Alors, c'est un petit peu ce à quoi s'évertuera ce colloque, qui, je le dis au passage, est un colloque scientifique, c'est-à-dire que il y a une certaine tenue intellectuelle, mais que les articles ou les conférences qui y sont faites sont des conférences qui sont le résultat des recherches toutes récentes des divers universitaires qui interviennent. Et d'ailleurs, je fais remarquer au passage qu'il n'y a pas que la France qui est envisagée dans ce colloque, puisqu'on viendra nous parler de l'Angleterre, qu'on viendra nous parler de la Bretagne, et oui, s'il vous plaît, au XIVe, XVe siècle, le duc de Bretagne n'est pas exactement français. On viendra nous parler aussi de l'Aragon, et d'une manière générale, de Florence également, de la principauté florentine. Il y a là une communication que je ne résiste pas au plaisir de vous citer, cette communication, d'un de nos collègues de Florence, « Politique et représentation dans le théâtre citadin, l'essor de Florence comme pouvoir souverain au début du XVe siècle ». Voilà quelque chose d'extrêmement prometteur, mais nous parlerons d'une façon générale certaines interventions sur les perspectives ouvertes sur l'Europe tout entière, l'Europe royale tout entière.
Jean Barbet, vous nous avez appâtés, comme on dit. Vous nous avez appâtés parce que il semble vraiment. Puis il y a une petite plaquette. Alors je vais donner quand même toutes les coordonnées à nos amis auditeurs s'ils souhaitent se procurer cette petite plaquette. Donc le colloque international pluridisciplinaire qui est placé sous la direction de Jean Barbet, professeur d'histoire de droit, et de Joël Blanchard, professeur de littérature médiévale. Donc on voit tout de suite l'interdisciplinarité de ce colloque. Se tiendra donc à l'université du Maine, c'est-à-dire au Mans, les 25 et 26 mars prochains. Je vous donne le téléphone pour obtenir toute information, renseignements, dépliants, connaître la possibilité de loger sur place, de déjeuner, de dîner, etc.
Que les gens nous téléphonent, nous occupons de réserver des hôtels.
Pas, les places sont réservées, ne vous inquiétez pas, allez assister à ce colloque, ça dure 2 jours et vraiment ça vaut la peine. Donc, c'est le département de français, le téléphone au Mans, et il faut faire bien sûr depuis Paris le 16. Si vous êtes en province, vous n'avez pas besoin de faire le 16, ce qui est un avantage d'être en province quand on écoute Radio Courtoisie. Je l'ai dit il y a 15 jours, je le redis. 43 83 31 68. Je redis encore une fois le téléphone, c'est le 43 83 31 68. Et puis pour ceux qui sont équipés de cette petite machine formidable qu'on appelle la télécopie, je dis pas le mot fax parce qu'il paraît que c'est sur Arte, comme c'est allemand, on dit fax, mais quand on parle français, il faut dire télécopie. Donc télécopie, parce que maintenant c'est tout bon, paf, hein. Faire attention
bon,
à ce qu'on dit, hein,
oui.
Mais il a pas tort.
Il n'a pas tort du tout.
Tout à fait d'accord. Alors, on a le droit de plaisanter, mais en même temps d'être très sérieux, c'est une chose effectivement, tout ça très bon. Tous ceux qui ne sont pas de cet avis-là, ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. On peut donc télécopier également à la faculté, à l'université du Maine, le 43 83 31-44, voilà, 2 jours de pur ravissement avec des communications de très grande valeur faites par des universitaires de tout premier plan, français et étrangers, qui vont venir parler et vous parler pendant 2 jours de représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen-Âge. Merci beaucoup Jean Barbet d'être venu nous présenter un peu sommairement et rapidement, mais je crois que vous avez eu suffisamment de chaleur et de force de conviction pour appâter de nombreux auditeurs. En tout cas, sans doute des actes seront publiés.
Alors, je précise d'ailleurs, si certains étaient intéressés, et aucun ne pourrait pas venir, que des actes seront publiés au tout début de l'année prochaine.
Bon, vous serez gentil, Jean, si vous l'acceptez, et de nous faire cette invité de venir parler de la publication de
ces actes. Bien entendu, c'est tout à fait d'accord.
Si Dieu nous prédit jusque-là, et si nous sommes encore à la radio à cette époque.
Je vous remercie.
Merci Jean, et puis pour vous remercier aussi et remercier nos auditeurs, on va faire une petite transition. Ah non, vous avez, pardon, Thérèse, vous avez encore des
choses à dire.
J'ai raison, hein. Ouh là là, mais il me fait les gros yeux, là. Oui, alors allez-y.
Il y a des messages qui sont là pour dire que vous me laissez pas assez parler, alors.
Vous voulez ma place, oui. C'est ça? Vous avez stipendié des auditeurs? Ce sont des faux messages, je n'y crois pas.
J'y vais, je vous les montrerai. Je voulais juste signaler une chose, c'est que le spectacle de Robert Hossein sur Marie-Antoinette, qui a duré 5 mois, et qui s'est terminé fin février.
Ouf.
Ouf, je m'appelais Marie-Antoinette. Je voulais quand même dire que Marie-Antoinette a été exilée tous les soirs, sauf une fois, la dernière semaine du spectacle, où elle a été acquittée.
Oui, mais enfin, c'est... D'accord. Je vais dire, je vais leur dire ce que j'ai envie de dire.
Quand même.
Non, mais c'est bien, c'est une information. Mais enfin, c'était pas vraiment nécessaire de procéder à cette parodie de jugement après la vraie parodie de jugement que la reine avait dû supporter. À part ça, le spectacle est très bien fait.
Un peu de musique.
Alors, parlons musique avant d'en entendre.
Je change de sujet. Un peu de musique. Donc, d'abord, pour rappeler que Patrice et Roger Martineau, que nous avons reçus il y a 15 jours...
Oui, très sympathique.
Oui, tout à fait.
Très sympathique.
Font des concerts à Paris. Donc, je rappelle les dates des concerts. C'est le 17, 18, 19 mars 94 à 20h30. Et le 20 mars à 15h. Donc, quatre concerts. Ça se passe salle du Centre Gendarme. 17 rue Léopold Bellan, dans le 2e arrondissement de Paris. Et pour les renseignements et les réservations, 64 56 07 49.
Alors le thème de ce spectacle, c'est un spectacle musical, c'est Vie de famille, puisque c'est le titre du dernier album qu'ils viennent de sortir et qui rentre dans le cadre de l'année internationale de la famille. Et ce qu'on en a passé il y a 15 jours à l'antenne avait ému beaucoup d'auditeurs. C'est formidable. C'est vraiment la belle musique populaire française. C'est très bien. Donc, et ce sont deux personnes très sympathiques.
64 56 07 49 pour les réservations.
Redis-nous encore une fois le téléphone pour les réservations.
64 56 07 49. Voilà. Ensuite, dernière annonce à propos d'un concert qui sera donné, deux concerts qui seront donnés les 23 mars et 25 mars, concert par les chœurs et l'ensemble Jubilaté de Versailles, qui avait déjà donné un concert.
Vous dites Jubilaté, vous alors?
Qu'est-ce qu'il faut dire, Daniel?
Bah, je sais pas, ça se prononce comment, Jean, vous qui êtes un grand.
Jubilaté, non, au Moyen-Âge, on prononçait pas comme ça. Mais Jubilaté, c'est la mode de la prononciation ecclésiastique depuis le 17e.
Romaine, pas gallicane.
Ah, Romain.
Je connais quelqu'un s'il nous écoute.
Oui.
C'est la prononciation ecclésiastique. Oui. Donc, Jubilaté, ensemble Jubilaté de Versailles et l'orchestre.
Vous dites Janus alors? Vous dites Janus ou Janus?
Janus, mais c'est parce qu'on m'a pris comme ça. Voilà. Direction Michel Lefebvre. Je voudrais bien finir mon annonce, s'il vous plaît. Voilà, donc qui donneront un concert. J'étais en train de dire justement qu'ils ont donné un concert l'année dernière au mois de janvier. Ils ont donné le concert de la musique du Sacre de Louis XVI. Madame la Duchesse d'Anjouet de Ségovie était présente à cette occasion-là. Et donc ils redonnent deux concerts cette année. Le premier concert, 23 mars, dans l'église Saint-Symphorien, place Saint-Symphorien à Versailles. Et le deuxième concert, le 25 mars, c'est-à-dire dans deux semaines, à l'église de la Trinité à Paris. Et pour ce qui est des réservations...
Et qu'est-ce que c'est comme programme qu'ils nous donnent cette fois-ci?
Je n'ai pas donné le programme, excusez-moi. Oui. Donc, le Miséréré des Jésuites de Charpentier, psaume 50, chœur à 6 voix.
Ça va très bien. Le Miséréré des Jésuites, ça me semble très intéressant.
Voilà. Et le De Profundis de Delalande.
C'est tout ça est magnifique.
Voilà. Donc, pour ce qui est des réservations, tout simplement la FNAC. FNAC Paris ou FNAC Versailles.
Bon, on est obligé de passer par la FNAC, alors.
On est obligé de passer par la FNAC. Bon. Si, l'Office de Tourisme de Versailles également.
Bon, bah alors, Office de Tourisme de Versailles, cherchez sur votre Minitel, parce que FNAC, bon. Enfin, bon, d'accord.
Si vous voulez aller au concert, il faudra bien passer par là. Donc,
bon.
Et ne manquez pas. C'est,
non, mais ce groupe est un groupe de grande qualité. Vraiment de grande qualité, orchestralement parlant, et puis aussi vocalement parlant, parce que c'est à la fois orchestral et vocal. Et ils font un très beau travail. Travail dont on peut peut-être.
Passer un extrait.
Écouter un extrait. Bah, ça tombe très bien puisqu'on a prévu ça dans notre petite conduite technique. C'est d'ailleurs les deux derniers morceaux que vous avez entendus. C'est le troisième. Ce sont la première suite des fanfares de Mouret. Alors on a entendu le premier mouvement, puis le troisième, parce que le deuxième était un peu long. Et on va entendre maintenant le quatrième mouvement, toujours interprété par l'ensemble Jubilaté de Versailles. C'est un disque compact EJV 9301.
Thank you.
Voilà, nous revoilà, c'était un peu plus court, mais voilà, ça fait partie donc des premières suites de fanfares de Mouret, et c'est disponible en disque compact auprès de nos amis du groupe, de l'ensemble Jubilaté de Versailles.
Je pense qu'ils seront en vente.
Ils seront en vente en concert. Bon, oui. Mais on les trouve aussi dans certains grands magasins de vente de disques dont je ne donnerai pas le nom à cette antenne. Alors, nous allons maintenant remonter encore un peu dans le temps, puisque nous sommes passés du Cambodge contemporain au Moyen-Âge, et maintenant nous allons remonter à l'aube du Moyen-Âge, peut-on dire, à la préhistoire du Moyen-Âge, en quelque sorte, puisque nous allons parler des Mérovingiens, à la fois parce que nous avons la joie de recevoir notre ami, puisque ça fait deux fois qu'il vient, donc maintenant ça y est, l'amitié est faite, Luis Valencia, qui est archéologue, et puis nous recevons également donc Christian Setipani, qui lui est un généalogiste. Alors, nous étions convenus, Luis Valencia, vous vous souvenez, il y a quelques mois, quand nous avions reçu pour la première fois cette radio, de vous réinviter, si vous acceptiez de repasser un petit moment avec nous, pour faire un peu le bilan de ces fouilles. Et puis, entre-temps, il s'est passé des choses surprenantes, parce que le bilan a été encore enrichi de découvertes que vous avez faites tout récemment, c'est-à-dire au mois de février, dans les premiers jours de février, ou les derniers jours de janvier. La presse en a parlé, mais je souhaitais que vous nous disiez un peu ce que vous avez trouvé de tout à fait encore exceptionnel en ce tout début du mois de février, voilà à peine un mois.
Bon, et normalement, la fouille finissait les 6 février, et les jours même, on avait trouvé un sarcophage en plâtre. C'est le dernier sarcophage qui est resté à fouiller. Et ce sarcophage était scellé, mais même si les couvercles s'étaient effondrés, étaient cassés, et on a commencé à fouiller, et on a commencé à voir qu'il y avait des fils d'or. Alors, toujours quand il y a peu d'or, c'est vrai que ça attire beaucoup l'attention, parce que normalement, on ne trouve pas souvent des tombes avec de l'or, et aussi parce que c'était la première fois à Paris qu'on trouvait une tombe, un sarcophage avec ce type de matériel. Et bon, malheureusement, les sarcophages étaient un peu abîmés parce que, bon, il était très près du sol, parce que, bon, j'avais dit la dernière fois que la place Boudoyer était un peu aménagée par l'ossement et certaines couches ont été détruites. Ça fait que les sarcophages étaient vraiment au ras de la chaussée. Alors, ce sarcophage était très intéressant parce que, c'est vrai, il y avait une espèce d'un petit dague et une boutrole en argent, en couche d'or.
Qu'est-ce que c'est alors
Une boutrole, normalement les dagues sont dans un fourreau en
oui,
cuir.
Oui.
Et c'est la boutrole, c'est la pointe pour que la pointe
de l'étui. La pointe de l'étui, c'est ça, la pointe de l'étui.
Ne perce pas l'étui. Alors, c'est vrai que ces genres de matériel et tout ça, c'était porté dans l'époque pour des personnages apparemment importants. Mais malheureusement, les squelettes, les ossements étaient assez à moi en petit état, c'est-à-dire un peu pulvérante. Mm-hmm. Et on ne sait pas aujourd'hui exactement si c'est un homme ou une femme, parce que bon, les études sont en cours, et c'est pour ça qu'on peut, on était un peu dépassé parce que ça a pris une ampleur importante dans la presse. Et normalement, on peut imaginer que ce personnage, c'était quelqu'un d'un rang élevé, mais on n'est pas à mesure aujourd'hui de dire plus.
Alors, on sait même pas le sexe d'abord de la personne dont on a trouvé les quelques restes, parce qu'on voit un peu partout les princes, enfin on n'est pas très sûr, mais en tout cas c'était quand même un personnage sans doute très important de l'administration ou de la cour mérovingienne.
Ouais. C'est-à-dire que c'est une nécropole, qui est mal connue, c'est-à-dire que comment ça se passe sur la rive droite. La rive droite, elle est mal connue en archéologie parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de fouilles, à part les fouilles de Louvre. Et là, par première fois aussi, c'est une nécropole, on a trouvé pas mal de sarcophages et d'autres matériels funéraires. Et aussi, c'est la première fois qu'on trouve un matériel abondant dans ces nécropoles, des boucles, des ceintures, des plaques boucles. Et qui est en place. Et alors, c'est vrai que la tombe, c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on a dit, parce que il y a des découvertes aussi importantes au niveau de l'habitat dans ce secteur de Paris, parce que on a toujours pensé que au 5e, 6e, 7e siècle, c'est la rive gauche, surtout de la cité, et là, c'était concentré la plupart de la population. Mais on peut dire aujourd'hui que ce côté de Paris, sous les monceaux Saint-Gervais, il y avait quand même un habitat regroupé, et que normalement, je pense qu'il y a un certain urbanisme, et qu'on peut dire qu'en même temps que la rive gauche, il y a une partie de la rive droite qui s'est développée. Et bon, on a trouvé aussi d'énormes troupes de poteaux et un poteau en bois, qui normalement ça pourrait être une défense avancée, ou pourquoi pas une enceinte qu'on cherche depuis longtemps, parce qu'il y a tous les historiens qui parlent des enceintes qui ont passé dans ce secteur mais qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a pas mal de controverses, et bon, alors toute cette information, c'est très intéressant pour l'évolution, pour connaître l'évolution historique de ces côtés de Paris et surtout du Marais.
C'est excellent. Enfin, moi je dis une chose au micro, je dis vive la bagnole. Alors, je vais avoir encore des messages, on va dire, mais enfin, pourquoi M. Amiche est si vulgaire, etc. D'abord, bagnole est un mot d'origine gauloise, donc on remonte beaucoup plus loin quand même que les Romains.
C'était un char à bœuf ?
Non, bagnole, c'est un mot d'origine gauloise.
Oui, mais à l'époque, c'était un char à bœuf, c'est
oui,
ça ?
Oui, évidemment, on n'avait pas encore inventé le moteur à explosion. Mais vive les voitures, parce que c'est grâce aux voitures, on est obligé, bien sûr, de creuser des parkings pour ces instruments qui sont à la fois si pratiques et si irritants. On fait des découvertes. Et là, vraiment, je crois qu'on a beaucoup avancé dans la connaissance du Paris mérovingien, qu'on n'imaginait même pas qu'il y avait de l'habitat de ce côté-ci, grâce à ce parking qu'on a commencé à creuser sur la place, sous la place Baudoyer, le 4e arrondissement, la mairie du 4e. Et sur ce chantier de fouilles qu'a travaillé avec tant de connaissances, de capacités, d'enthousiasme, Luis Valencia. Quand vous dites, on a trouvé pas mal de sarcophages, c'est combien de sarcophages?
C'était, bon, là, on a trouvé 207 inhumations. Entre ces inhumations, il y avait, parce qu'il faut voir que dans ces 207 inhumations, il y a la nécropole de Saint-Gervais et aussi et le cimetière de Saint-Jean, c'est le cimetière du XIIIe siècle. Alors, dans la nécropole de Saint-Gervais, on a trouvé 65 sarcophages en pierre et en plâtre. Et voilà, on a trouvé aussi une chose assez intéressante qu'on est en train d'étudier, c'est une épitaphe qui était sur les couvercles d'un sarcophage. Malheureusement, il est assez abîmé. On est en train de le restaurer, de le consolider pour essayer de le déchiffrer. Et parce que aussi, c'est une des premières fois, je pense que c'est la première fois qu'on trouve une épitaphe en place sur une tombe.
Et ça pourrait être une langue, ça pourrait être le latin, ça pourrait être...
C'est du latin. Et je pense que ça pourrait être une tombe du 5e siècle. Parce que, bon, aussi, la découverte qu'on a fait sur la place Baudoyer, et nous permettra peut-être de connaître aussi l'évolution de la nécropole, et en même temps connaître aussi l'église Saint-Gervais, qu'on connaît mal à sa date de fondation. On sait qu'elle existait depuis le 6e siècle, mais qu'éventuellement ça pourrait être une église du 5e ou plutôt, enfin 4e. Bon, je ne m'avance pas, mais sûrement si on voit que la nécropole existait déjà au 5e siècle, pourquoi pas imaginer que l'église, la nécropole a gravité autour de l'église, et on dirait, bon, là, cette église est ancienne, même si on ne connaît pas la date de fondation. Alors, ce sont même des informations importantes pour l'histoire de cette église et de quartier. Ça ferait une des plus vieilles églises aujourd'hui de Paris, et surtout de la rive droite.
Surtout cette rive-là. Alors, tous ces découvertes, ces parties de sarcophages trouvées, parfois brisées, évidemment, parce que bon, le temps a quand même fait son œuvre. Alors, c'est entreposé où ?
Bon, une partie de ces sarcophages sont allés à les dépôts archéologiques de la ville de Paris, à la rotonde de la ville de la commission du Vieux Paris, à qui j'ai travaillé étroitement. Et une autre partie sont dans une cave de la mairie du 4e. Et parce que la mairie envisage faire une espèce de crypte pour montrer au public qu'est-ce qu'on a trouvé. Et alors, ils sont répartis entre la mairie du 4e et la rotonde de la Villette. Et aussi parce que normalement, on va restaurer quelques-uns, parce qu'il faut voir aussi, le public n'imagine pas que c'est une pierre assez friable, qui avec la pluie aussi, parce que c'est l'époque d'hiver, comme on a fouillé, c'est une pierre qui se dégrade très facilement, il faut la faire sécher, et ça coûte beaucoup d'argent, la restauration. Mais normalement, on a sauvé tout ce qu'on a pu sauver, et surtout, on a aussi pas mal de monnaies qui vont du Empire romain jusqu'à les 13e, peut-être 14e siècle. Peut-être qu'à ce niveau-là, on aura aussi beaucoup de surprises.
C'est fou ce que les gens perdaient. Les gens perdaient déjà de l'argent à l'époque, puisqu'on en retrouve. Je parle pas des butins qu'on peut trouver, des gros paquets que les gens mettaient de côté pour leurs vieux jours, et puis ils n'ont pas eu le temps de voir les vieux jours, et puis le butin est réapparu qu'un siècle ou 2000 ans plus tard. Mais les gens perdent beaucoup de choses. C'est incroyable. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a reconstitué des choses. Ça tombe de sa poche. Ça vous arrive jamais, Christian Silipani, de perdre des choses?
Ça m'arrive trop souvent.
Ça vous arrive trop souvent aussi. Bah, voyez, alors peut-être dans 1000 ans, on retrouvera une pièce qui vous a appartenu. Alors, bon, vous êtes, je pense, content de ce chantier de fouilles parce que vous avez découvert beaucoup de choses et grâce à ces découvertes, la connaissance de cette époque va progresser. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu triste aussi parce que maintenant c'est fini le chantier?
Il y a une tristesse, mais on se projette dans le futur parce que maintenant la partie la plus intéressante
commence.
C'est l'interprétation, les études, les recherches pour essayer de comprendre tout ce qu'on a ramassé. Et c'est là on est quand même on s'aperçoit les travail qu'on a fait et on avance et on a quand même petit à petit on voit comment on peut apporter quelque chose pour la connaissance de cette partie de Paris. Et en même temps, bon, ça pose certaines questions pour des autres chercheurs et pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un espoir pour parce qu'on dit, bon, on va avancer un peu et on va donner quelque chose. C'est-à-dire que, bon, on a déjà l'habitude de ce type de réalisation.
Bah, il me reste à... Alors, merci à vous. Une auditrice, question à poser. Rapidement,
demande s'il y a un fascicule qui est sorti sur ces fouilles.
Pas encore, je pense.
Un livre, est-ce qu'on peut se procurer ça quelque part?
C'est-à-dire que bon, il y aura, de toute façon, il y a pas mal d'articles qui sont apparus dans la presse, dans les revues. Et il y aura certainement un article qui va apparaître dans une revue, je sais pas si je peux dire le nom, une revue nouvelle, c'est l'archéologie nouvelle qui va apparaître peut-être bientôt. Ou sinon, il y a tous les revues spécialisées comme Sciences et Avenir qui vont faire un article et d'autres journaux. Mais normalement, on envisage peut-être aussi une publication. Mais pour faire une publication, normalement, il faut un peu de temps parce que pour digérer et pour faire la recherche, on a besoin encore de pourquoi pas dire quelques années.
Vous reviendrez l'annoncer?
Bah oui, vous revenez, vous êtes chez vous maintenant ici, vous connaissez l'adresse, donc il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je tenais quand même à vous redire ce que je vous avais dit quand vous étiez venu l'automne dernier, c'est je remercie beaucoup le Colombien que vous êtes, parce que vous êtes de nationalité colombienne, je remercie le Colombien amoureux de Paris de rendre aux Parisiens, aux Français, le sens de leur histoire.
J'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé à Paris depuis déjà, ça fait 9 ans, et en plus la culture n'a pas de frontières.
Merci de nous le dire en tout cas. Bravo pour ces très belles découvertes. Et puis, dès que les choses iront notamment vers la publication, n'hésitez pas à nous faire signer.
Avec plaisir, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de surprises encore à annoncer.
Moi, j'en suis absolument convaincu. Enfin, merci de ces belles découvertes et merci d'être venu avec nous ce soir. Mais restez encore parce qu'on va parler un peu de votre époque avec Christian Sétipani. On va parler donc de la préhistoire des Capétiens. Alors, il faut que je dise aux auditeurs que il y a un garçon que j'aime beaucoup, que je connais, qui est un garçon qui habite dans le Nord. On a parlé tout à l'heure de Marc-en-Barœul pour je ne sais quel concert. Bah oui, il habite à côté de Marc-en-Barœul. Enfin, je ne sais plus où est-ce qu'il habite. On va vous donner l'adresse tout à l'heure. Villeneuve-d'Ascq. Ouais. Qui est un garçon absolument adorable. Il est fou. C'est un homme fou. C'est-à-dire que dans d'autres époques, on l'aurait enfermé. Il y aurait mis une camisole, on l'aurait enfermé. Mais pourquoi? Parce que cet individu, cet Olubrius, s'est dit un jour... Il faut refaire une histoire généalogique de l'Auguste Maison de France. Il n'y en a plus depuis le père Anselme, c'est quoi, c'est le 17e, 18e, c'est plutôt le 17e, hein, c'est époque Louis XIV, grande généalogie. Bon, Pourquoi ? Parce que on peut pas travailler sur un matériel qui a déjà plus de 2 siècles d'existence. Beaucoup de choses se sont passées depuis. La maison de Bourbon a explosé dans le monde entier. On sait plus où on en est. Alors il s'est mis au travail. Il a travaillé avec les ordinateurs, avec l'informatique. Bon. Et tout le monde rigolait. On se tapait comme ça, on mettait l'index le long de la tempe. On disait, mais celui-là, vraiment, il est très, très, très atteint. Et puis, 1987, il sort un premier volume qui s'appelle La Maison de Bourbon. Un livre absolument prodigieux. Un gros ouvrage de 800 pages avec des tableaux, des index, enfin un truc absolument inimaginable. Tous les Bourbons y sont, les illégitimes, les légitimes, les bâtards, un truc absolument insensé. Bon, si c'est bien, il a fait quelque chose d'intéressant. Oui, mais enfin, il va pas tenir la route. 3 ans plus tard, en 89, il sort Les Valois, donc toute la branche de Valois de la maison capétienne, passée à la moulinette. Tous, les légitimes, les illégitimes, encore un livre de 800 pages. C'est pas croyable. Et là, tout à coup, est sorti, à la fin de l'année dernière, alors un livre encore plus fou, parce que vraiment, les Valois et les Bourbons, on arrivait à peu près quand même à remonter dans les branches de l'arbre généalogique, si je puis dire, à se cramponner aux branches. Mais là, la préhistoire des Capétiens, faut le faire. Alors non seulement le livre est sorti, en plus, il a une préface de Carl Ferdinand Werner, qui est sans doute le spécialiste européen de l'époque mérovingienne, qui est un Allemand de qualité extraordinaire, il connaît absolument tout sur le monde franc. Vraiment, on sent que c'est une chose tout à fait sérieuse. Et ce premier volume de parce qu'il va y avoir 2 tomes en fait, je me trompe peut-être.
Non, il y a 2 tomes effectivement.
Il y a 2 tomes, hein, c'est un volume en 2 tomes. Bon, donc il est paru le premier volume, le premier tome.
Parce qu'en fait, au départ, on envisageait de faire un seul volume, mais comme je dois dire que je traînais un petit peu pour finir ce qui figurera maintenant dans le deuxième volume, on a décidé, pour ne pas faire attendre trop les lecteurs, de faire paraître l'ouvrage en 2 parties. La première partie donc qui est parue cette année, fin 93, et la deuxième partie que j'espère finir dans les 2 ans, on va dire.
Alors, ce qui est arrivé là, je dois dire que moi, ça a été quelque chose, j'ai pris ça comme une claque. J'ai reçu ce livre à la fin de l'année dernière, ça a été vraiment mon plus beau cadeau de fin d'année, parce que c'est inimaginable, l'accumulation de science, d'érudition dont ce livre est plein. Parce que qui dit préhistoire des Capétiens dit essayer de comprendre comment se sont imbriqués, comment cette race capétienne, d'où vient-elle? D'abord, ça sera peut-être le thème du second volume. Enfin, on a sur les Mérovingiens, alors, un nom que je connaissais même pas. Bon, les Robertiens, je connaissais, c'est les ancêtres immédiats des Capétiens, ça on connaît. Les Carolingiens, bon, grande dynastie, Charlemagne, ceux qui ont la télévision, ils savent ce que c'est. Enfin, non, justement, ils savent pas ce que c'est du tout, mais enfin, passons. Parce que voir quand même Charlemagne avec des drapeaux à fleurs de lys, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Oui. Bon, les Mérovingiens, Clovis, on sait, c'est bientôt le 15e centenaire. Mais alors, les Arnulfingiens. Alors là, mon cher Cétipani, expliquez-nous ce que sont les Arnulfingiens.
Eh ben, ce sont les ancêtres.
Ça a vraiment existé, ça. C'est pas comme les Shadoks et les Gibis.
Non, ça existait. Mais le terme est récent. C'est-à-dire qu'ils ne s'appelaient sans doute pas comme ça eux-mêmes. Ce sont les ancêtres des Carolingiens, tout bonnement. C'est la ligne anactique mâle dont est issu Charlemagne.
Alors, anactique, précisé pour nos auditeurs.
C'est-à-dire la ligne des ancêtres par les mâles. Voilà.
D'accord.
Parce que la parenté à l'époque n'était pas uniquement perçue par les contemporains, de mâle en mâle, comme on le fait souvent aujourd'hui en généalogie, mais la parenté incluait aussi toute la parentèle féminine. Donc on est obligé de préciser quand on parle d'ancêtres ou de parents, si on parle de parents par les mâles ou par les femmes.
Ou par les femmes, d'accord.
Alors vous remontez jusqu'à quel siècle sur l'analogie?
Alors, pour les Mérovingiens, je commence à mérover de façon tout à fait classique.
Pourtant, on disait qu'il n'avait jamais existé, que c'était mythique.
Je ne pense pas que Mérové soit mythique, mais ce qu'on raconte sur lui, certainement, c'est encore autre chose. Mais les autres généalogies royales de l'époque barbare, entre guillemets, remontent tous à des princes historiques.
Mais alors, Pharamon, par exemple, ça aussi, c'est du pipeau, Pharamon, non?
Pharamon, je ne pourrais pas vous dire si c'est du pipeau ou pas, comme vous dites. C'est certainement pas l'ancêtre direct de Mérové. Et de là à dire qu'il est inventé, non, parce que le nom se retrouve dans l'aristocratie franque. Donc il y avait sans doute des gens qui se réclamaient d'un prince qui s'appelait Pharamon. Donc de façon indirecte, on déduit que Pharamon a dû exister. Maintenant, il est peu probable qu'il ait dans la généalogie des Mérovingiens la place qu'on lui attribue depuis le Moyen-Âge.
Alors comment jusqu'où vous êtes remonté donc jusqu'à Mérové? Pour vous c'est le l'ancêtre tutélaire,
Mérové, c'est simplement par souci de ne pas trop me faire éreinté par la critique, parce que jusqu'à Mérovée, on peut parler encore d'à peu près de certitude. Mais la race royale des Francs prétendait remonter aux origines du peuple. Le peuple s'est formé vers le IIIe siècle, c'est une confédération de tribus qui se sont unies pour des raisons politiques. Et on peut supposer que dès l'origine, ils ont eu leurs rois qui ont été pris dans une famille unique. Donc Mérovée était un membre de cette famille, et elle remontait donc au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et on connaît les noms d'un certain nombre de princes depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à Mérovée. De là à dire qu'ils sont issus de père en fils, c'est certainement faux, donc ils se succédaient de façon certainement plus compliquée. Mais on connaît presque à chaque génération, et des fois plusieurs noms par génération, de princes francs.
C'est dommage que Jacques Népote soit parti, parce que pour ce qui est de la succession Khmer, je vous garantis que c'est pas aussi évident que la succession française, enfin, la grande succession française depuis les Capétiens, c'est vraiment très très compliqué aussi. Mais alors, il y a une chose que je crois me souvenir avoir lu dans la préface de Werner, ou peut-être dans les notes qui accompagnent cet énorme volume qui fait, je sais pas comment il fait, mais ça fait, je pense, 700 pages, mais il fait
votre... Je l'écris, je ne l'ai pas lu.
Je crois que ça fait 700 pages, c'est un pavé absolument énorme. Attention, hein. Une chose que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, j'insiste beaucoup, c'est un ouvrage, il faut avoir la Bible avec le Nouveau Testament et le bottin téléphonique pour ceux qui n'ont pas Minitel et la nouvelle histoire généalogique de l'Auguste Maison de France. Ça, c'est une chose absolument indispensable. En fait, l'impression qu'on a, c'est que il n'y a pas véritablement deux mondes séparés entre l'administration romaine, enfin les autorités romaines, et le monde franc, qu'il y a quelque part des lieux de passage qui pourraient nous faire peut-être remonter encore beaucoup plus haut, en fin de compte.
Je ne pense pas que ce soit seulement des lieux de passage. Je crois que pour les contemporains, un personnage comme Clovis se sentait certainement
plus romain que
franc. Mmh. C'est-à-dire qu'il était avant tout un dignitaire de l'Empire romain, et ensuite un prince franc.
On est sûr qu'il a été patrice des Romains, comme on l'a lu quelque part.
On n'est pas sûr de façon certaine, mais je dirais que il est probable qu'il a été patrice romain, mais ça peut encore se discuter, je dirais que c'est un point de détail. Quel que soit son titre ou sa dignité exacte, c'était certainement quelqu'un qui se considérait comme un dignitaire romain, qui s'intégrait dans un monde qui était un monde romain, et qui restait un monde romain bien plus tard que ce qu'on appelle classiquement le début du Moyen-Âge.
Et ça, c'est très important, parce que ça rompt avec une idée reçue, et sans doute une idée, on n'a pas reçu comme ça du ciel, c'est une idée qui a été taraudée dans nos esprits depuis des générations, qu'il y avait les barbares d'un côté, vêtus de peau de bête, avec des casques et des cornes, et puis des haches, et de l'autre côté, les Romains un peu décadents. Quoi, non, pas comme ça que ça s'est passé en fait.
Parmi les ancêtres de Clovis,
un certain
dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui sont des gens qui ont dirigé l'Empire romain et qui ont exercé des charges très très élevées dans l'Empire. Ils étaient en plus rois des Francs, mais ils étaient surtout des gens qui, plus que l'empereur en titre, gouvernaient l'Empire. Et donc fatalement, ils se sont servis de l'Empire, ils se sont intégrés dans l'Empire, ils en ont utilisé toutes les possibilités. Et l'Antiquité, de ce point de vue-là, s'est prolongée bien plus tard que ça, et même au-delà de Charlemagne. C'est-à-dire que tout le contexte juridique, économique, était romain, jusque sous les Carolingiens et bien après.
Voilà, c'est ça le
De toute façon, la rupture ne se fait pas brutalement. Il y a toujours un passage qui dure longtemps, parce que même à l'époque mérovingienne, on voit toujours que les Romains ont persisté dans certaines parties.
Ce mot de la chute de l'Empire romain, on a l'impression que c'est une espèce de fracture, comme si l'Empire, un peu à la façon de cette île mythique, là, s'enfouissait sous l'océan, l'Atlantide, c'est ça. Puis alors, tout à coup, arrivaient des petits bonshommes avec des peaux de bête et puis des casques à cornes. Et puis, ils tuaient, ils violaient. Et puis après ça, petit à petit, ils se civilisaient. Bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé en vérité. Il y a eu une espèce de continuité, bien sûr, pas avec des hauts et des bas, sans doute, mais il y a eu une espèce de continuité. Et qui est intéressant, c'est l'interpénétration, donc entre tous ces princes francs qui vont constituer le royaume franc, puis après ça, avec les Carolingiens, le nouvel empire d'Occident, cette interpénétration, cette osmose avec ce qui restait des institutions romaines, qui elles-mêmes remontaient à très très loin. Donc ça nous fait quand même, ce livre met en perspective l'endroit où nous sommes aujourd'hui, dans une très très large perspective, qui va bien sûr au-delà du baptême de Clovis de 496.
Sur le plan de la vie quotidienne, effectivement, il y avait continuité, et l'archéologie le montre tous les jours. Mais sur le plan de la généalogie aussi, parce qu'il n'y a pas eu d'un seul coup un massacre des Gallo-Romains, et puis une race qui est arrivée et qui a envahi un pays qui était désert. Il faut bien savoir que les Francs n'ont jamais représenté peut-être plus que 5% ou quelque chose comme ça de la population. Donc la population restait à peu près identique avant et après les invasions. Les gens qui sont arrivés, ils ont fait comme tous les envahisseurs, et ben ils se sont installés quelque part et puis ils se sont unis, généalogiquement parlant, donc en épousant les femmes ou les filles des précédents occupants, à la population en place. Ils ont intégré les coutumes des populations en place en apportant bien entendu leurs propres particularités, c'est comme ça que ça en évolue. Et sur le plan de la noblesse, puisque c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement, il y a effectivement une continuité qui va de l'époque des Mérovingiens jusqu'à l'époque du Moyen-Âge classique, ce qu'on entend par le Moyen-Âge au XIIe siècle. Une bonne partie des familles, même si on ne le sait pas aujourd'hui parce qu'on n'en a plus la preuve, remontaient aux périodes mérovingiennes, et peut-être au-delà.
Formidable, on pourrait parler comme ça jusqu'à plus d'heures. Malheureusement, on nous fait des signes désespérés derrière la glace. Il va falloir qu'on rende l'antenne. On est toujours très triste de quitter l'antenne. Alors, bon, je rappelle le titre de l'ouvrage que a rédigé Christian Settipani, présent ce soir et dont que je remercie d'être venu dans le cadre de la grande collection qui s'appelle Nouvelle histoire généalogique de l'Auguste Maison de France, placée sous la responsabilité de l'ami Patrick Van Kerbroek, qu'on a eu raison de pas mettre la camisole parce qu'il fait un boulot absolument extraordinaire. La collection complète se composera de 7 volumes. Vous en avez aujourd'hui 3 de disponibles. Et je vous invite, hein, pour ceux qui le peuvent ou qui le souhaitent, à se procurer chacun de ces 3 volumes. Il y a eu donc Les Bourbons qui est paru, Les Valois, et maintenant La Préhistoire des Capétiens, 481-987.
Le tome 4, Les Capétiens directs.
Et Les Capétiens directs arrivent dans un an. Alors, je vous donne donc le téléphone où vous pouvez appeler. Il faut appeler, bien sûr, c'est à côté de Lille, c'est à Villeneuve-d'Ascq. Donc, vous pouvez appeler le soir M. Patrick Van Kerbroek. C'est un homme tout à fait charmant, il sera content de vous entendre au téléphone. C'est le 20 41 24 73. Donc, si vous appelez Paris, il faut faire le 16, bien sûr. Donc, depuis Paris, le 16, le 20, le 41, le 20, le 41, le 24 73. Appelez-le, demandez des petits fascicules de présentation. C'est tout à fait remarquable. Moi, je suis époustouflé qu'on puisse encore se lancer dans des entreprises de cette nature aujourd'hui, compte tenu des difficultés qu'on sait. L'édition en particulier, c'est une édition auto-édition, n'est-ce pas? C'est bien plus pratique. Et je tiens à féliciter, bien sûr, Christian Settipani, que je rencontre pour la première fois, mais son nom m'était déjà connu comme celui du Capet ou de Clovis. Mais je ne l'avais encore jamais rencontré. Je remercie beaucoup d'avoir fait ce travail extraordinaire. Quelqu'un nous dit, où peut-on se procurer la cassette du compte-rendu de la commémoration du couronnement de Chartres?
Mais il n'y en a pas encore, en tout cas.
Pas encore, mais ça va venir, on vous en parlera dans une quinzaine de jours ou dans un mois. On y travaille, tout le monde y travaille. Merci à tous d'être restés avec nous ce soir. J'espère que vous avez profiter de cette émission qui vous aura appris beaucoup de choses, parce qu'à moi ça m'a appris énormément de choses. Et puis je vous dis, bien sûr, avec Pierre-Emmanuel, nous disons à dans 15 jours, et peut-être un peu de musique, et ben voilà, un peu de musique pour terminer la soirée.
Bonsoir.
Bonne nuit à tous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech et par Daniel Amiche, assisté de Pierre-Emmanuel. Émission du 9 mars 1994, diffusée le dimanche 18 mai 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix Front-de-Port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.